Hicham chante testicule et ça ne choque personne, oui, visiblement. Hicham vient de nous faire un test-test-testicule et...
On n'est plus à sa prête, tu sais.
Qu'est-ce que c'est, ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer?
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets.
Pour les rendre les plus vulgaires possibles.
Exactement, Juan, merci. Aujourd'hui, pour vous divertir, j'ai avec moi une fine équipe et on va commencer par ce cher Juan.
Ah bon? Bonjour. Comment allez-vous?
Bah, je vais très bien.
Ça va.
Ça va.
Monica.
Hello. Ça va?
Ça va, ça va. Hicham.
Salut, salut.
Ça va?
Très bien, et toi?
Hicham qui est à 10 cm du sol. Je...
Hicham aime bien enregistrer couché de manière massive.
Ouais, bah c'est
lâche ce raisin.
On est à l'aise.
C'est juste qu'il est petit.
Oh.
Et donc, Karim, comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Bah, ça va nickel.
Tu m'as pas aidé à déménager la semaine dernière, je t'en veux énormément.
C'est vrai, bah j'étais déjà occupé.
Ouais, c'est donc, ça, t'avais mieux à faire, dis-le.
Bah moi, toujours mieux à faire quand déménagement.
C'est le principe. Et Camille?
Oui, j'ai cru que t'allais m'oublier.
Non, jamais. Parce que tu ne m'oublies jamais, je ne t'oublierai jamais. Whenever, wherever.
Et toi, Elias, comment ça va?
Oh, il a déjà demandé 3 fois.
On t'a déjà demandé plein de fois, t'as jamais répondu.
Si, j'ai dit que ça allait. Si, ça va, ça me fait plaisir d'être avec vous, de faire ce 11e épisode.
Déjà?
Ouais,
on
a publié le 10e, là, il y a peu de temps, ça fait bien plaisir. Bah, on recevait justement Fanny. De Passion Médiéviste, oui. C'était bien bien chouette.
Je suis dégoûtée de ne pas avoir été là.
Excuse-toi tout de suite.
Fanny, on a pensé à toi.
Je m'excuse, Fanny, et j'espère te voir très 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 prochainement. Voilà.
Inch'Allah. Alors, on t'a beaucoup regretté, puis finalement, on a vu qu'elle avait fait un bon sujet, donc finalement, c'était pas grave, quoi.
Tu es remplaçable.
Est-ce que je peux te dire d'aller te faire foutre?
Oui.
Oui, allez, c'est gratuit.
Je pense que tu viens de le faire.
Ouais.
Ah mince, oups.
Est-ce qu'il n'y a pas des bails de filage?
Ouais, il y a des balles de des bails de filage. Bah justement, on va commencer par Camille pour changer.
Quelle transition.
Tu vas nous parler de quoi?
En parlant de balles, je vais vous parler de la guerre d'Algérie.
Allez.
Nickel,
super.
Des bails de Gégène, d'électricité, de plein de trucs sympas.
J'ai un peu peur, moi.
Oui, oui,
En parlant d'Algérie, Hicham, tu vas nous parler de quoi? Ah, désolé, c'est pas moi qui ai voulu.
Moi, je vais vous parler d'un petit sujet de quand l'homme défie les animaux.
Et en parlant d'animaux, Juan, tu vas nous parler de quoi?
Je vais vous parler d'Interpol, ce qui n'a rien à voir.
Avec Ilias, en tout cas.
Non, effectivement. Mais moi,
mais
je vais vous parler d'un organisme vivant qui s'appelle le blob.
Le blob.
Qui est très intéressant, vous verrez.
Bien. On aime bien le nom, déjà.
C'est cool.
C'était aussi un très bon film, dont le remake n'était pas très bon.
C'est vrai.
J'ai pas compris la référence.
C'est pas grave.
Justement, je l'expliquerai. Bah, écoute, tant qu'on y est, on va partir sur.
La rubrique qu'on appelle la roue libre. 1, 2, 3,
vive Algérie! Le Sidi Ibrahim, c'est un vin algérien, le vin de l'Ouest, le vin colonial, alors.
Je vous ai compris!
Excellent jingle. Mais...
De Gaulle et Faudel, je n'en remettrai pas quoi, le choc des cultures, pardon.
Ça me fait plaisir. Eh, n'empêche, ça va bien ensemble.
Franchement,
quoi,
oui.
Ils n'avaient pas tort à l'époque, hein, faut mélanger. Non, non, non. J'ai pas glissé pour les sextoys, j'ai pas glissé maintenant.
Très bien, et eh bien écoutez, on est parti sur la guerre d'Algérie. C'est un beau challenge parce que l'objectif en fait c'est d'essayer de vous faire comprendre la guerre d'Algérie en 15 minutes.
Annonce pas le temps parce que là...
Oui, non, non, mais je tiens à vous préciser d'avance qu'à mon avis je ne respecterai pas le temps.
C'est
voilà.
15 minutes théoriques.
Voilà, exactement. Dans la pratique, ce sera beaucoup plus.
Allez, dis-nous tout.
Alors, vous êtes tous au courant qu'il y a eu une guerre récemment contre l'Algérie, enfin récemment.
Ouais.
Non. C'était il y a 60 ans, donc au vu de l'histoire, ce n'est pas grand-chose.
En effet.
Voilà. Est-ce que vous avez une petite idée de quand est-ce que les Français vont coloniser l'Algérie? À partir de quand l'Algérie a été, entre guillemets, française?
Fin 19e?
Non, c'est bien en 19e.
Ah bon?
Ouais.
Ouais.
Eh oui.
Ouais.
Eh oui, tu connais mal l'histoire de ton pays, dis donc.
Bah, attends, qu'on mette les choses au clair.
Oui,
je suis certes algérien, j'ai les papiers algériens, je n'y ai jamais vécu.
Mais toi, tu devrais être suisse, en fait.
Tant que j'ai des papiers européens, donnez-moi ce que vous voulez.
Ah, on a eu un coup de fil de Captain Digression, ouais. Donc on parlait du milieu du 19e siècle,
la guerre d'Algérie.
Donc, depuis 1848, en 1830, les Français commencent à coloniser Alger. Je ne vous donnerai pas les raisons, parce que sinon on va partir dans un débat énormissime, donc je vous invite à vous-même à aller vous intéresser sur le sujet. Un petit peu de recherche ne vous fera pas de mal.
Ah, tu donnes du pouvoir et tout.
Exactement. Et la France va mettre 18 ans à coloniser l'Algérie.
Ça, c'était grand. C'est grand, l'Algérie.
Bah oui, c'est pas petit. Ça a été une conquête qui a été extrêmement violente, étant donné que l'armée française va tuer un tiers de la population.
Ah oui.
Ah oui.
Bon, ah, oui. Ah ok.
Ah, on fait pas dans la dentelle, messieurs dames.
En fait, okay. C'est nous, voilà, qu'on est les méchants.
Bah dans la colonisation, c'est bon, aujourd'hui.
Pas de le dire.
Non mais Bouteflika lui-même l'a dit il y a pas longtemps. Avec nos yeux à nous, oui, mais le milieu du 19e siècle, c'est une période de colonialisme. Donc en fait, ça s'inscrivait dans une tendance.
C'était à la mode, quoi.
Bah non, 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 mais
seuls,
c'est vrai.
C'est pas moi qui ai commencé. Lui
exactement.
Aussi, il est méchant.
Et l'Algérie, c'est une colonie assez particulière pour la France, étant donné que ça devient une énorme colonie de peuplement, c'est-à-dire qu'on va envoyer énormément de Français sur place. Et lorsque la guerre d'Algérie débute, donc au milieu du XXe siècle, il y a environ 1 million de colons en Algérie.
Alors la guerre, c'était pour que les Algériens récupèrent leur indépendance ?
Exactement, alors ça, on va y venir, là, on va vraiment parler des origines de la guerre. Le souci, en fait, c'est que rapidement, lorsque l'Algérie était encore la France, je fais des guillemets avec mes doigts, ce qui n'est pas très radiophonique, mais voilà, je le précise, la France, en fait, très rapidement, exploite les Algériens. On s'en rend très vite compte. Donc, toute l'économie algérienne, elle est gérée par la France, et sur les 10 millions d'habitants en Algérie, 9 millions sont ce qu'on appelait à l'époque des Français arabo-musulmans et berbères, et 1 million sont des Français issus de France, donc des colons.
Alors, je vais juste faire un petit point rapide. Algérie, à l'heure actuelle, c'est le deuxième plus grand pays d'Afrique ou le premier ?
Le premier.
Le premier.
Le premier. Et il y avait 10 millions d'habitants ?
Oui.
Putain, c'est pas beaucoup.
Non, c'est pas énorme parce que l'Algérie, et Hicham ne nous dira pas le contraire, est peuplée essentiellement sur la côte. Exactement.
Oui. D'accord.
Voilà. À cette époque-là, on n'a pas énormément de raisons de vouloir vraiment s'attacher à l'Algérie, dans le sens où on n'a pas encore découvert qu'il y avait
du pétrole.
Exactement, qu'il y avait des sources de pétrole et de gaz au moment où débute la guerre d'Algérie. Donc voilà, on a 10% pardon, de la population qui est faite de colons français. Et ces 10%-là, eh bien, ce sont les gens qui vont contrôler les usines, les commerces, etc., dans lesquels travaillent les Algériens. À Alger, il y a un parlement qui représente les habitants d'Algérie. Et 50% des députés représentent les colons français et 50% représentent les Algériens. Donc du coup,
c'est équitable.
C'est pas très équitable.
Une catastrophe économique et démographique potentielle. Donc.
Exactement. Et sur les députés musulmans, ou en tout cas arabes, on en a une grande majorité qui n'ose pas s'opposer au vote formulé par les colons. Et qui du coup va voter dans le sens des colons français. Donc au final, les Algériens se sentent de plus en plus délaissés.
Est-ce que ces colons, ils étaient près de la mer, c'est-à-dire
essentiellement
plutôt, est-ce qu'on peut dire que du coup, au nord, c'était les colons?
Voilà. Vous n'avez pas vu venir. Ok.
C'est sorti de nulle part. Vas-y, continue.
Elle était géniale. Merci.
On va la noter.
Donc, au moment où la guerre débute en 1954, mais là j'y reviendrai, le président de la République est à cette époque notre maître à penser à tous.
René Coty.
René Coty.
Ah, René,
exactement.
Notre président.
Bambino, voilà. Bambino.
Exactement. Qui, lui, est pour une Algérie française. Et Mitterrand est à cette époque-là le ministre de l'Intérieur, et c'est lui qui va dire cette fameuse phrase, l'Algérie, c'est la France. Les Algériens commencent à vouloir une indépendance de plus en plus, parce qu'ils se rendent compte, entre guillemets, que les Français vont pas avoir une politique économique à leur avantage.
Bah non.
Et donc on va avoir des actes d'indépendance, des manifestations, ce genre de choses, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, qui vont être très fortement réprimées par l'armée française, et qui vont faire énormément de morts. Donc au début des années 50, on a des Algériens qui vont créer un mouvement qui s'appelle le FLN, le Front de Libération Nationale, qui est un mouvement, à l'époque, qui ne s'en cache pas, terroriste. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de faire comprendre aux Français qu'on ne veut pas d'eux par la violence. Et le FLN est assez peu soutenu par la population algérienne au début. Contrairement à ce qu'on peut nous raconter aujourd'hui, mais là-dessus, j'ai rien.
Peur de la répression. Mais comme toute rébellion, en fait, au début, ça commence par un tout petit mouvement, et
c'est
après, ça prend de l'ampleur.
Mais
ils étaient pacifistes, tout simplement.
Et le FLN n'a absolument rien à envier à tout ce qu'on va raconter à propos de ce qu'a pu faire comme horreur l'armée française. Hein. Le FLN a tué énormément d'Algériens.
Ouais, alors bah ouais, pour, voilà. Moi j'ai en tête, apparemment ils sont très très organisés, ils ont réussi à déclencher beaucoup d'explosions en même temps, ce qui a semé la pagaille. Ils avaient en plus des femmes poseuses de bombes qui du coup passaient inaperçues dans les, oui. dans les cités et bah, foutaient une...
Le FLN utilise des femmes, des enfants, des étudiants, des gens entre guillemets qui paraissent absolument lambda, mais quand tu regardes comme Daesh en fait aujourd'hui...
Hey, sympa ta ceinture
donc... en fait le FLN est à l'origine des 8 années de guerre qui vont suivre. Donc sur mes notes, j'avais marqué les 8 ans de joyeuseté, mais bon, pas tant que ça. Donc le début de la guerre. La guerre d'Algérie débute à la Toussaint 1954. En fait, le 1er novembre, le FLN va faire 70 attentats simultanés en Algérie.
Impressionnant.
Et ça va faire des centaines de morts. Donc ces attentats, ils sont essentiellement concentrés en Kabylie, à Alger et à Oran. Et c'est des attentats qui visent essentiellement...
Les colons.
Les colons qui sont pas tous forcément de méchants français qui exploitent. Hein. Il faut vous dire qu'il y a également beaucoup d'instituteurs, de médecins, etc., dont les parents sont nés en Algérie, dont les grands-parents étaient nés en Algérie, etc., qui n'ont jamais connu la France. Mmh. Voilà. La France riposte en envoyant énormément de soldats, et donc ça marque le début officiel de la guerre. Pour riposter, la France, du coup, elle prolonge le service militaire des soldats français qui doivent aller en Algérie. On passe d'un service militaire de 18 à 27 mois, et on estime que durant les 8 années de guerre, on a environ 2 millions de soldats français qui sont allés faire leur service militaire en Algérie de 27 mois. Ce qui est énorme quand on y réfléchit, hein. 2 millions de soldats...
Pour notre génération, ça représente une bonne partie de nos grands-parents potentiellement.
Exactement. Ouais. Oui, c'est assez hallucinant.
Plus déjà que la JAPD, ça a l'air chiant.
C'est pas le même délire. Mais la France se dit également qu'effectivement, on s'est peut-être pas assez préoccupé de la vie des Algériens. Et donc on décide à cette époque-là de mener une politique d'intégration, on va essayer de favoriser l'éducation des jeunes Algériens, ce genre de choses, mais on s'y prend beaucoup trop tard en fait. Hein. Vraiment, le FLN a lancé une idée, on a de plus en plus d'Algériens qui vont être pour le départ des Français.
Et puis effacer 60 ans de colonialisme avec des clubs de sport, bon bah...
On est d'accord.
Je comprends que les mecs étaient un peu blasés.
Le tennis ne résout pas tout, voilà. Donc est-ce que jusque-là c'est bon pour vous?
Oui, mais oui,
ça.
Il faut surtout pas hésiter à me dire si à un moment vous ne suivez plus, hein. Il n'y a aucun souci. Donc, la guerre débute en 1954, et en 1955, la France déclare quelque chose qu'on connaît très bien aujourd'hui, mais qui est assez nouveau à l'époque, l'état d'urgence en Algérie.
Ah bah, tout à fait.
Mm-hmm. Voilà, n'est-ce pas?
On a le droit de faire tout comme on veut.
Exactement, c'est-à-dire que l'armée a tout pouvoir pour, je cite, « rétablir l'ordre par tous les moyens ».
Et ils se sont pas fait chier, les salauds, en plus.
Oui, ils se sont pas fait chier, exactement. Donc on a des manifestations contre les Français qui vont s'organiser à Alger, et on a du coup des généraux français qui... pour réprimer ces manifestations-là, vont commencer à banaliser la torture.
Sympa. Ouais.
Et puis c'est l'expérience qui est héritée de la guerre qui vient de se finir en plus.
Il y a un côté de ça, malheureusement. Et donc, l'armée française va être la première à utiliser la torture, mais le FLN n'a rien à nous envier là-dessus, étant donné que le FLN va être assez spécialiste aussi des tortures. C'est-à-dire que l'armée française fait des prisonniers algériens, le FLN n'en fait pas.
D'accord.
Voilà, donc torture et but. Voilà.
Nous étions tout de même bien placés, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça, oui. Il y avait le capitaine Neneuil qui était sur place.
Ah oui, le capitaine Neneuil, il était à fond les ballons, hein, ouais. Du tagine, plein de nez, voilà. Les quatre premières années de la guerre sont assez sanglantes, le reste aussi, vous allez me dire, mais en fait, il y a un tournant en 1958. C'est-à-dire que les pieds noirs sur place, donc les pieds noirs, ce sont les colons. Voilà, on ne sait pas vraiment d'où vient le régime pied noir, hein, pour parler des colons, mais aujourd'hui, quand on emploie le terme pied noir, si vous cherchez la définition, ce sont les colons français d'Algérie. On peut pas dire qu'on est pied noir en parlant du Maroc ou en parlant de la Tunisie, par exemple.
Non,
voilà. C'est, voilà. Ah oui, tu en sais quelque chose, Ilias, n'est-il pas? Alors d'ailleurs, les pieds noirs, on raconte qu'en fait le nom viendrait du fait que la plupart des Français installés en Algérie, à la base, ils étaient exploitants dans le vin, et c'était la couleur que prenaient les pieds lorsqu'on pressait le raisin avec.
J'avais entendu la même version.
Voilà, c'est la version que j'ai lue qui revenait le plus souvent, en tout cas.
Putain, le pinard nous suivra partout.
Ah, mais c'est
quoi,
ça.
Quoi qu'on fasse.
Exactement, il y a toujours du vin à la clé. Donc les pieds noirs manifestent un petit peu partout parce qu'ils ont extrêmement peur de ce qui se passe actuellement en Algérie, et ils ont peur que l'Algérie récupère son indépendance, et ils s'inquiètent, eux, pour leur avenir, pour leur exploitation, etc. Donc on va faire appel au général de Gaulle, parce qu'on s'est dit de Gaulle a su rétablir la situation lors de la Seconde Guerre mondiale, il saura rétablir la situation maintenant. On appelle de Gaulle, qui va balancer à un balcon à Alger son fameux « Je vous ai compris ». On n'a pas compris à qui il s'adressait,
voilà,
nous, par contre.
Doute,
Exactement. Ouais. Mais les Algériens l'ont pris pour eux, les colons l'ont pris pour eux.
Voilà, ça contentait tout le monde.
Exactement.
Je suis démago.
Et le général de Gaulle va chercher à assoupir les choses. On ne sait pas vraiment si c'est par conviction personnelle ou si c'est plutôt parce qu'il a cédé à une énorme pression que nous faisaient à cette époque-là l'ONU et les États-Unis. En fait, la Charte des Nations Unies dit que, évoque le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, à cette époque-là, les États-Unis et l'ONU dénonçaient énormément ce que nous, en France, on faisait subir à l'Algérie, tout simplement.
Ce qui est on ne peut plus normal,
étant donné que nous, on avait accepté de donner l'indépendance à toutes nos colonies, sauf à l'Algérie. Les Algériens étaient les seuls qu'on ne voulait pas lâcher. Une fois de plus, toujours parce que c'était une colonie de peuplement. Donc, ça venait vraiment des colons, en fait, hein, cette idée-là. Donc, De Gaulle, en 59, il va proposer l'autodétermination des peuples par référendum. C'est-à-dire qu'il dit, les Algériens ont qu'à voter. Voilà. Alors, il y a eu des référendums, au final. Il y a une fois, les Algériens ont dit oui, on veut être indépendants. L'autre fois, ils ont dit non. On pense que ça a été truqué. Est-ce que les Algériens qui ont voté, ce sont les colons, les Algériens? On n'en sait rien. En tout cas, ces référendums, ils n'ont jamais réellement été pris en compte. Et à cette époque-là, les pieds noirs se sont sentis extrêmement trahis. Et donc, il y a une nouvelle merde, entre guillemets, qui va arriver dans la guerre. C'est que les pieds noirs se sont dit, on va créer notre FLN. Notre parti terroriste, oui. À nous. Et en 1961, ils vont fonder l'OAS, l'Organisation Armée Secrète.
Donc,
Organisation Armée Secrète.
Voilà. Qui a accueilli, entre autres, le colonel Neneuil. N'est-ce pas ?
Colonel Neneuil.
Qui a d'ailleurs participé à la vie politique française, pour ceux qui n'avaient pas deviné.
Voilà.
Je vais te faire courir.
Et à partir du moment où l'OAS est créé, eh bien, il y a un nouveau tournant, c'est que la guerre en fait, commence à toucher la métropole. C'est-à-dire qu'en France, jusqu'ici, ça nous semblait extrêmement lointain ce qui se passait en Algérie. Ça concernait les colons et les Algériens. Mais là, la guerre arrive sur le territoire. Parce que l'OAS va organiser des attentats en Algérie, certes, mais essentiellement en France.
Et c'est en quelle année à peu près ça, enfin...
La création de l'OAS?
Ouais.
61.
D'accord.
Voilà.
Ouais, donc ça fait bien 7 ans, c'est ça que c'est...
La guerre a commencé en 54.
C'est pas mal.
Voilà. Donc, oui.
J'ai une petite question aussi. C'est une des premières fois. Parce qu'autant des guerrières, on en a déjà vu. Mais là, c'est une espèce de double guerrière en fait. Parce qu'avec ceux qui sont occupés, ceux qui occupent, qui guérillent aussi. Et avec les militaires par-dessus. Donc, ça va être un monstrueux bordel. Ça, c'est invivable.
Ça a été monstrueux bordel. Oui, ça a été un monstrueux bordel. Et justement, on va revenir sur le fait que le devoir de mémoire aujourd'hui est très compliqué à cause de ce monstrueux bordel. Donc. L'OAS fait des attentats en France et en Algérie, le FLN riposte, se met aussi à faire des attentats en France, on n'en sort plus, et du coup, la condition des Algériens qui vivent sur le territoire français va énormément se durcir. Ça, je ne sais pas si vous l'avez su, mais du coup, les Algériens, à partir de 1961 à Paris, sont soumis à un couvre-feu.
Ouais.
Et ne peuvent pas se rendre dans tous les endroits publics. Donc ça commence à sentir un petit peu la petite étoile jaune, ce genre de petites choses.
Les heures les plus sombres de notre histoire.
Exactement. Donc le FLN va appeler à une manifestation pacifiste avec femmes et enfants le 17 octobre 1961. Donc on a énormément d'Algériens qui vont décider de ne pas suivre le couvre-feu et de se rendre à cette manifestation à Saint-Michel. Et la préfecture de police ordonne aux policiers de tuer les Algériens, de tirer à balles réelles et de noyer les Algériens dans la Seine.
Dans les années 60.
J'ai une question.
En 62, oui.
J'ai une question.
61.
Pourquoi?
Ouais,
parce que à cette époque-là, le préfet de police est Maurice Papon.
Ah,
ok.
Tout s'explique.
Voilà, ai-je besoin d'en dire plus?
Vous pouvez malheureusement trouver des photographies de ces événements qui sont magnifiques, mais un peu difficiles.
Mais les photographies sont très dures à regarder. Il y a notamment une image du Pont Neuf où on a quelqu'un, un membre de l'OAS probablement, qui a tagué sur le Pont Neuf. Cette photo, elle se trouve assez facilement ici, on noie les Algériens. Donc si vous vous rendez à Saint-Michel à Paris, à l'entrée du Pont Saint-Michel, il y a une toute petite plaque où on reconnaît qu'on a tué des Algériens, mais c'est vraiment tout petit.
Ça assume pas trop.
Alors, on n'arrive pas vraiment à savoir combien de victimes il y a eu ce soir-là parce qu'on ne les a pas recensées.
Déjà qu'on avait décidé de les tuer, alors les recenser.
Oui, c'est clair.
Plus de 300, ça c'est sûr.
Oh, putain, c'est...
Mais après, les Algériens vont grossir les chiffres, donc les Algériens diront 2000, les Français, on va tenter de minimiser, on va dire 150, c'est impossible à savoir.
Donc, c'est un peu comme les manifs CGT et police.
Exactement.
Il y avait 15 millions dans les rues.
Et quelques mois plus tard, à nouveau la même chose, au métro Charonne, une manifestation du FLN, on rafle des Algériens, on les bute à l'intérieur de la station de métro. Voilà. Alors, l'OAS va également tenter de faire assassiner le général de Gaulle. Il y a l'attentat du petit Clamart, ce genre de choses. Le général de Gaulle, ça lui court un petit peu sur le haricot, et donc...
va essayer de me tuer, c'est pas très sympa, ça.
Toujours une expression de merde. Hein,
c'est...
toujours, ça ne change pas. On garde les bonnes habitudes.
Quand même pas venu ici pour beurrer des moules.
Et... ni enculer des mouches. Et donc, en 1962, on signe les accords d'Évian, le général de Gaulle ordonne un cessez-le-feu, et c'est la fin officielle de la guerre d'Algérie, mais les violences vont continuer encore, l'OAS et le FLN, chacun de leur côté. Voilà. L'attentat du petit Clamart que j'ai mentionné, je fais un petit erratum, a eu lieu juste après les accords d'Évian, pas avant. Mais voilà, mais il y a eu d'autres tentatives d'assassiner de Gaulle juste avant. Alors, est-ce que vous avez compris en gros les grandes lignes de la guerre d'Algérie ?
Tout à fait.
En gros, oui. Maintenant, le problème qu'on rencontre, que ce soit... voilà, moi je travaille dans un collège et je le vois avec les troisièmes, c'est assez difficile d'évoquer ce sujet-là. C'est pourquoi la guerre d'Algérie, aujourd'hui, elle est si dure à oublier ? Pourquoi est-ce que c'est un sujet tabou ? Pourquoi est-ce que les... Voilà,
déjà,
il y a tout un tas de raisons, et ça c'est la première, la plus évidente, c'est que c'est super récent. C'était de 54 à 62, donc moi j'ai fait le calcul, mon père, du coup, pendant la guerre d'Algérie, il avait entre 7 et 15 ans. Et mon oncle y est mort à l'âge de 22 ans. Donc moi, quand je regarde, c'est la génération qui est juste au-dessus de la mienne. Donc après, je sais que par rapport à mon âge, mon père est assez âgé, mais...
Il est assez âgé, putain.
Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment récent. La deuxième, c'est un bilan qui est extrêmement lourd, point de vue dégâts humains, et qui est composé essentiellement de civils. On pense qu'il y a 1 million d'Algériens qui ont été tués sur, je vous le rappelle, une population de 9 millions d'habitants algériens. Et qu'on a déporté 2 millions de la population algérienne.
Putain,
déportés, c'est-à-dire
de... Alors, pas dans des camps, mais on les a forcés à déménager.
Voilà. Enfin...
Ça dépendait. Alors, si on a eu des espèces de camps de réfugiés.
Tu vois la route, tu vas tout droit et.
Non,
tu
non,
t'arrêtes
mais,
quand je te le dis.
C'est comme Simba, part très loin, il ne revient jamais.
On va évacuer des quartiers entiers d'Oran, d'Oran, par exemple, pour réquisitionner pour l'armée française ou ce genre de choses. Voilà. On déplace la population aussi pour semer la terreur, pour fatiguer les gens, etc. et pour montrer que la France est en rapport de force par rapport aux Algériens. En France, on estime qu'il y a 25 000 soldats qui sont morts, et les attentats de l'OAS ont fait un peu plus de 500 morts. Les attentats du FLN, c'est impossible à définir, parce qu'ils sont allés massacrer des petits villages de harkis, ce genre de choses.
Alors les harkis, qu'est-ce que c'est ?
Oula.
J'y viens. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les raisons les plus évidentes. Les raisons un petit peu plus complexes, c'est que ça a été une guerre qui a vraiment divisé les pays. Énormément. Oui.
Oui, non, moi j'ai juste une petite remarque sur les... les raisons, etc. Ce que je trouve horrible, qui m'a choqué dans ce que tu as dit, c'est que... Quand tu parles de la police qui a décidé de tuer à vue globalement à Paris, en fait généralement les guerres ça fait des morts sur les champs de bataille. Là ce que je trouve ultra choquant c'est qu'il y a eu des morts qui ont été faits par décision de l'État sur un sol qui est censé être en paix. Genre à Paris, et c'est ultra choquant en fait. Enfin, surtout,
c'est
en plus,
méga choquant.
Disperser une manif à balles réelles. Enfin,
on était davantage sur une exécution publique que sur
un champ de bataille. Et dans les années 60, c'est abominable.
Moi, j'ai appris assez récemment, enfin quand je dis assez récemment, il y a quelques années, pour cette histoire des massacres du 17 octobre. Toi, Rouen, t'avais l'air d'être au fait de la chose également.
Absolument.
Et je pense que t'as été comme moi, t'as été complètement choqué d'apprendre que dans Paris, à trois pas de Notre-Dame, ça s'est passé et qu'on balançait les Algériens à la Seine. Donc oui, moi je trouve ça super choquant et encore plus choquant. Qu'on ait totalement occulté cette petite partie.
Il y a aussi cette difficulté du devoir de mémoire que rencontrent encore aujourd'hui les Allemands par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de documentaires qui vont en parler sur la présence que ça a dans les écoles, ce devoir de mémoire là. Là, c'est vraiment très récent et c'est difficile à expliquer parce que c'est pas, on n'était pas entre guillemets sous un régime comme les Allemands avaient le régime nazi qui est reconnu comme diabolisé vraiment, alors que le général de Gaulle est encore idolâtré par énormément de monde, et toute cette période-là, on la voit pas comme une heure sombre politique de la France, et du coup c'est beaucoup plus difficile à expliquer à des enfants en fait, et à assumer.
Et puis de Gaulle aujourd'hui est adulé.
Oui,
adulé, apprécié, c'est très compliqué pour quelqu'un qui a connu la Seconde Guerre mondiale de lui dire que de Gaulle est un salaud. C'est super compliqué.
Il n'y a qu'à voir les dernières élections. Je suis gaulliste. Bah, tiens, tu m'en diras tant.
Et bien la prochaine fois, vous penserez au 17 octobre.
La prochaine fois, vous tweeterez la petite plaque qui est sur le pont.
Je ne dis pas du tout que c'est de Gaulle qui a organisé le 17 octobre parce qu'on sait que non, pas du tout. Mais
c'est ce jour-là.
Mais c'est quand même assez flippant. Enfin, je veux dire, il était à l'Élysée, il était dans Paris. Je pense qu'il a été au fait dès le début de ce qui se passait. Voilà.
On peut le deviner.
Voilà, je suppose. Après, je n'y étais pas, mais je pense. Donc, voilà, c'est également une guerre qui va diviser vraiment les pays. Je trouve que c'est encore le cas, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en France, il y avait les gens neutres. Ils entendaient parler d'une guerre qu'ils ne comprenaient pas. Essentiellement, les soldats. Moi, je vois, mes grands-parents n'ont jamais compris pourquoi leur enfant était mort. Mais même mon père n'a jamais compris pourquoi son frère était mort dans une guerre. Enfin, il venait de Franche-Comté et tout. Dans une guerre, dans un patelin qui...
Oui, il n'y avait pas de raison. Voilà. Ils disaient, en plus, ils avaient déjà vécu une guerre. Bah, laissez les vivre tranquilles en fait.
Exactement. Ça a été un petit peu l'idée. Donc on a les neutres, on a ceux, enfin on a les membres de l'OAS, on a des intellectuels qui étaient pro-indépendance algérienne et qui manifestaient dans Paris. Et en Algérie, on avait le FLN, on avait les pro-indépendants algériennes mais qui étaient plus modérés, qui ne voulaient pas passer par la violence, et on avait les harkis. Donc les harkis, les Algériens qui ont combattu au nom de la France.
Ah oui. Ah.
Voilà. Qui était pour que l'Algérie demeure française.
Contre l'indépendance.
Voilà, parce qu'ils pensaient que l'Algérie n'arriverait pas à s'organiser toute seule, que économiquement la France apportait tout un tas de choses, blablabla. Bla bla bla. Le problème aussi, c'est que ça a été une guerre sans nom. C'est-à-dire que le mot guerre, pour parler de l'Algérie, est employé depuis très récemment, depuis peut-être quoi,
Chirac,
10 ou 15 ans
Chirac.
Ouais, depuis ouais. Chirac, je pense.
Exactement.
Avant, on disait la situation d'Algérie, le problème algérien.
Le truc.
Le parlons d'autre chose d'Algérie.
Ouais, c'est ça. Le on n'y était pas, c'est pas nous, d'Algérie. Donc, ne pas employer le mot guerre, je pense que ça a énormément contribué à créer des tensions. Et on a également eu aussi de nombreux peuples oubliés. Je tiens à parler des pieds noirs, qu'on a tendance à beaucoup diabolisés. Alors oui, il y en a eu plein qui ont été des salauds, mais il y en a eu plein aussi qui, voilà, qui étaient instituteurs, qui avaient leur petite vie en Algérie et qui n'étaient ni pour ni contre l'indépendance en soi et qui se sont retrouvés mêlés à tout ça et qui ont dû quitter leur pays en 5 mois. C'est-à-dire que 1 million de colons ont quitté l'Algérie en 5 mois. C'est énorme. Il a fallu les accueillir en France. Donc c'est là qu'on s'est mis à construire les cités, les HLM, ce genre de choses. À la base, c'est pour les colons hein, qu'on va faire les cités.
Ouais, parce que c'était vraiment leur maison. Enfin, ils ont...
La plupart n'ont jamais connu la métropole, donc, jamais.
C'est hardcore quand même.
Ça a été très violent. Et ils ont laissé tous leurs biens. De toute façon, l'Algérie, au moment de l'indépendance, a décrété, c'est Ben Bella qui a décrété que tous les biens des Français devaient être saisis par l'État algérien. Donc les quelques colons qui avaient réussi à rester ont été chassés par l'Algérie lors de son indépendance. Et en fait, les Algériens disaient aux colons qui voulaient rester la valise ou le cercueil. C'était ce qu'on taguait sur
le...
Ou
la
le cercueil.
On dirait trop un épisode de Narcos pour ceux qui connaissent Plata ou Plomo.
Tu commences à nous gonfler avec Narcos.
Bon, ok, ça va. C'est pas Pablo Escobar qui disait ça.
Oui, absolument.
Plata ou Plomo. Cabron.
Et donc, les colons arrivés en France, les pieds noirs, ils ont été diversement accueillis. Parfois bien, parfois moins bien. Ils ont eu une difficulté d'intégration assez forte. Et en fait, ils ont entretenu le souvenir de la terre perdue parce que l'Algérie, c'était chez eux. Mmh. Et ils ont créé, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler la nostalgérie.
Nostalgérie. C'est beau comme une chanson de Sardou, ça.
Ce n'est pas de moi, mais, mais voilà.
La nostalgérie.
Et l'autre peuple oublié qui a énormément souffert de cette guerre, c'est les harkis.
Ouais, bien sûr.
Voilà, les harkis, ça a été terrible. La plupart ont été massacrés par le FLN. Donc en fait, c'est-à-dire que l'Algérie a vraiment connu une vague d'épuration, comme nous, on en a connu après la Seconde Guerre mondiale. Et certains sont venus en France, on estime environ 40 000. Et ils ont été totalement délaissés par le gouvernement français, ils ont été mal reçus par la population locale parce que on les voyait comme des Arabes. Et à cette époque-là, c'était extrêmement mal vu. Et ils ont été reconnus...
Pas qu'à cette époque-là.
Oui, mais là, on a vraiment une haine assez viscérale. Et
à cette époque-là non plus.
Et ils ont été reconnus et indemnisés, ces harkis, en 2001, par Jacques Chirac.
Putain, ça fait tard, hein.
Ça fait 40 ans après leur départ, hein. Beaucoup sont morts.
Ouais, hein, qui a une jambe de bois depuis 30 ans. Ah bah écoute.
C'est les fils de harkis, hein, ceux qu'on appelle les fils de harkis, ouais. Essentiellement. Et ils ont dû se rebeller dans les années 90 pour obtenir ça. C'était notamment du côté de Sète et de Perpignan. Mm. Ceux qu'on appelait les fils de harkis, ils ont foutu le feu aux banlieues, ils ont cramé des bagnoles, etc. En disant mais ça suffit. On est entassé là-dedans, on n'a jamais eu aucune reconnaissance alors qu'on a aidé la France à gagner la guerre d'Algérie. Enfin, à gagner ou à perdre. Ouais. Hein.
Ils avaient le droit d'être pas contents.
Et puis ce que je trouve horriblement triste, c'est qu'en fait, les harkis étaient bienvenus ni en Algérie ni en France. C'est que peuple les rejetait.
Et j'avais avec toi justement, Hicham, ce débat et avec ton père où vous me disiez qu'aujourd'hui, un harki qui revient en Algérie.
Il est un peu mal vu, quoi.
C'est encore un peu touchy. Je pense que dans certaines grosses villes, ça va, mais dans les petits bleds.
Est-ce que. Je sais pas si tu en parlais, mais aujourd'hui, c'est encore le FLN qui est au pouvoir. Mm-hmm. Donc, finis ta bière.
J'y suis. Pardon. Et donc ce qui va faire aussi que la guerre elle est très difficile à oublier, c'est qu'il y a eu énormément de violences entre guillemets gratuites, une banalisation de la torture ça pareil, on a encore énormément de mal à en parler aujourd'hui, mais ça a été une guerre extrêmement violente qui n'a vraiment rien à envier de ce point de vue là à la Seconde Guerre mondiale, donc ça a été très compliqué pour les gens de se reconstruire de ce point de vue là. Et je terminerai sur un dernier point pour dire que le travail de mémoire en fait a été énormément bâclé par les États qui ont entretenu en fait une certaine forme de souffrance. En France par exemple, entre 1962 et 1982, on va amnistier tous les actes de barbarie et de torture qui ont été faits par des soldats sur des Algériens. C'est-à-dire que, par exemple, Jean-Marie Le Pen, on le sait, il a participé à des actes de torture.
Quoi ?
Mais ça a été considéré comme acte de guerre. Et donc aujourd'hui, il peut en parler librement sans pouvoir être poursuivi par la loi. Point barre.
Eh ben c'est bien.
C'est sympa, hein, ça fait plaisir. Ambiance.
Bah, sachant qu'en plus on sortait de plusieurs guerres, donc je pense qu'ils ont voulu précipiter la reconstruction en... avec une absolution massive.
Mais exactement, l'idée c'était on oublie. Et donc les victimes en fait de ces actes de torture ne verront jamais leur bourreau condamné. Le but du jeu, c'est de ne pas parler de tout ce qui s'est passé. On essaye de limiter à fond les témoignages des soldats. Moi, je vois les villages de Franche-Comté. On ne fera jamais une émission sans mentionner la Franche-Comté, je vous préviens.
C'est que quand t'es là, hein, les... parce que sinon, ça fout royalement
de Franche-Comté. On parle de la guerre d'Algérie, vraiment, là, tu...
voilà, mais en Franche-Comté, il y a eu énormément de jeunes, de fils de paysans qui sont allés faire la guerre d'Algérie, et même encore aujourd'hui, ils n'en parlent pas. Voilà,
c'est... pas français aussi.
Ouais. Vindio.
Soit... et donc en fait, ne pas parler de tout ce qui s'est passé, c'est pour essayer de retrouver une unité nationale, parce que comme je vous l'ai dit, en France l'opinion était très divisée, donc c'est bon, allez, on amnistie, on oublie, mais non, il s'est rien passé de bien méchant, allez, on se concentre sur autre chose, ah mais 68, ça tombe à pic, voilà. Et donc en Algérie, on va également vouloir modifier l'histoire, on va créer en fait le mythe unitaire de l'Algérie tout de suite après la guerre, c'est-à-dire qu'on va faire croire que tous les Algériens, qu'il y avait un consensus autour du FLN, que tous les Algériens ont adoré ce que le FLN a fait, ce qui n'est clairement pas le cas. Et on va essayer de masquer également les divisions, c'est-à-dire qu'on va massacrer ou envoyer en prison tous les opposants du FLN ou tous ceux qui vont dire « oui, le FLN a fait de la merde », c'est le cas par exemple de Ben Bella, qui va être arrêté et envoyé en prison. On tait les horreurs du FLN, on surévalue le nombre de victimes pour accabler encore plus la France. Enfin bref, en Algérie, on va essayer aussi de masquer un petit peu la chose. Ce qu'il faut conclure à propos de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, le FLN, effectivement, est toujours au pouvoir en Algérie, avec un concombre à sa tête, pardon, je voulais dire Abdelaziz Bouteflika, et a connu des crises internes qui ont...
ça va être dans cette émission qu'on aura une crise diplomatique avec toi, là. Mais tu n'as pas tort.
J'ai pensé à voix haute, merde. Et le FLN a connu des crises internes assez violentes qui ont plongé les Algériens dans des périodes extrêmement sombres, par exemple les années noires à Alger dans les années 90. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quel avenir auront les Algériens lorsque Bouteflika mourra ? Ça risque d'être assez compliqué, étant donné que pour la toute première fois, des Algériens devront choisir un président qui n'aura pas participé à la libération de l'Algérie par le biais du FLN. Jusqu'ici, ils n'ont eu que des anciens victorieux en fait, de l'Algérie. Donc je pense qu'à la mort prochaine de Bouteflika, c'est pas un souhait, hein, c'est un constat.
C'est une question de jour, ça,
voilà, c'est une question d'heure.
Ça fait juste 10 ans qu'on dit ça, nous.
Mais c'est vrai, mais il a empaillé, tout le monde le sait. Et il a été proclamé président éternel, n'est-ce pas, comme dirait le Gorafi algérien. Eh bien, je pense que ça risque d'être un joyeux bordel, étant donné que le FLN ne voudra plus dire grand-chose à la mort de Bouteflika. Voilà.
Est-ce ils vont se mettre en marche.
Voilà, j'espère que vous avez réussi à suivre et que vous avez un peu plus compris les tenants et les aboutissants de la guerre d'Algérie.
C'est bien, t'es pas trop parti en roue libre en plus.
Oui. Non, et j'ai fait des efforts.
Il y a 15 minutes pile poil.
T'inquiète pas, je vais intervenir.
Ouais, ça suffit.
Je suis désolée.
Alors, je me permets du coup une petite reco. Je vous conseille déjà de base Culture 2000, qui est un podcast monstrueusement intéressant.
Carrément.
Qui est très cool. Et d'ailleurs, ils ont fait un sujet sur la guerre d'Algérie qui est très bien, sur une heure avec plusieurs personnes et tout. Et c'est vachement bien aussi, donc je vous le conseille.
On leur a laissé une heure, eux.
Ouais. Ouais, mais ils sont
ouais,
plus.
Ouais, mais ils sont quatre.
Ouais, voilà.
Eux.
Non mais très chouette et je crois savoir qu'en plus Camille a d'autres sujets dans sa besace de ce type là, même si tout n'est pas joué, tout n'est pas que sextoy, hein, vous savez.
Tout n'est pas que Godmichet malheureusement.
Voilà, mais du coup pour alléger un peu les choses, on va passer à Hicham.
Faut-il vous le rappeler qu'il est extrêmement dangereux l'animal Alain ?
Je sais, mais c'est que la cage est extrêmement grande.
Arrêtez de discuter la discussion, hein.
Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get it.
Et allez, let's get gettons ready to rumble tous ensemble. Donc ouais, moi mon sujet ça va être les animaux contre les êtres humains.
T'as eu un moustique dans la nuit, c'est ça?
Round one.
Non, je sais pas si vous avez entendu, c'est assez récent où Michael Phelps devait nager contre un requin.
Oui. Ils ont fait une vidéo assez étrange.
Non, parle pas trop.
D'accord.
Mais pas mon sujet.
Il a dû se faire pété en deux. Enfin.
Mais non, justement. Alors attends. Donc c'était en juillet 2007. Donc c'était il y a quelques mois là, cet été.
2017. Ah oui, ben je 2007. Tu as quelques
mois. Tu as dit 2007.
Bah, j'ai mal articulé.
On verra l'arbitrage vidéo. Vas-y.
Donc ouais, juillet 2017. Donc il y a eu Phelps contre un requin blanc. Donc quand c'est.
Ça dirait Morano.
Coïncidence.
Un requin de race blanche.
Catholique. Un requin catholique.
Ils ont pas fait ça le dimanche matin, j'imagine qu'il était à la messe le requin sinon.
Quoi. Non, fait, fait,
bon courage. Hein. Parce que là je peux dire que c'est une demi-heure de guerre d'Algérie, on s'est retenu tout le long, c'est toi qui vas en chier.
Super.
Vas-y.
Alors, donc Phelps avait dit j'ai battu tous les meilleurs nageurs, sauf un. Donc il parlait du requin. Oh, putain.
Vas-y, il s'appelait comment le requin?
Mais qu'est-ce que vous avez contre moi? À chaque fois que je fais une rubrique, vous me laissez pas parler.
C'est ton visage.
Non, on te laisse parler, on te laisse parler.
Donc ouais, donc en fait c'était un peu une sorte de combat, on pouvait imaginer ça en mode dans le in the red corner from the USA. Et bon bref. Donc Phelps, 32 ans, mesure 1m93, il a 28 médailles olympiques.
32 dents.
Dont 23. Ah, j'ai pas compris. dont 23 qui sont en or, donc c'est quand même énorme.
28 médailles olympiques dont 23 en or.
Ouais.
Chaud.
Ouais. Ouais.
Et le requin a zéro médaille. Hein.
Mais bon, le requin, lui, il mesure 6 mètres de long. Il pèse 3 tonnes.
Mais du coup, il avait de l'avance au niveau de la truffe. Quand ça s'est passé.
Oui, la truffe du requin, c'est bien connu.
La fameuse.
Mais en fait, en regardant les images, bah, c'était pas contre un vrai requin.
Et non.
Donc c'était un requin. Enfin,
c'était des images de synthèse.
Voilà.
Ah, mais c'est nul.
Tu nous as vendu du rêve pour rien, là.
Ouais, mais qu'est-ce que tu veux. C'est pas moi qui ai dirigé. Angle Discovery Channel. Donc ouais, c'était pas un vrai requin. Donc mais même.
Bah alors attends. Ouais, c'est un requin hologramme.
Non, ils sont.
C'est le requin Mélenchon.
Ils ont calculé la vitesse du requin et l'ont reconstitué.
De comme sur Avatar, hein, c'est pas pour de vrai.
Oui, parce que je me disais bien que le requin, il allait pas suivre un parcours très défini. Enfin, je me demandais comment il le faisait, tu sais, avec des bouts de viande.
Il nageait, il a regardé à droite, tiens, un Michael Phelps.
Phelps, il avait une combi ultra fine qui faisait 1 mm d'épaisseur.
Et le requin.
Et il avait une monopalme, et avec ça, il a fait 38,1 secondes.
Pour faire combien de distance Parce que moi dans ma baignoire je fais les trucs en 30 secondes.
Tu vas savoir ce que tu fais dans ta baignoire.
On va pas savoir quoi.
Mais tu vas jamais d'un bout à l'autre de ta baignoire.
Bon. C'est pas une baignoire.
Alors, donc, il a fait combien de temps pour la course?
On en est à 18 digressions. C'est
et
bon. Vas-y.
Donc Phelps 38,1 seconde et le requin blanc.
Appelons-le Philippe.
36. Sharky, moi je préfère Sharky.
Sharky.
Sharky il a fait 36,1 seconde. Donc il a battu Michael Phelps.
Bravo. Allez. Sharky.
Donc le requin a eu sa première médaille.
C'est ça, et justement, Phelps a dit « Je n'aime pas avoir une médaille d'argent, mais contre un adversaire comme ça, je dis pas non. » Donc il est sport.
Oui, il a perdu.
Il a surtout pas envie de mourir. Mais en tout cas, en me penchant sur ce sujet-là, j'ai trouvé plein d'autres...
affrontements.
D'autres combats, entre guillemets, comme ça. En 2012... Pistorius contre Maserati, donc non, pas la voiture, mais c'était
cheval.
un cheval pur sang arabe.
Encore celui-ci.
Celui-là, par
il
contre.
Était pas blanc.
Cheval noir.
C'était à Doha. Pistorius a gagné, mais bon, il avait quand même une avance de 15 mètres. Vous vous rappelez de Pistorius, le mec sans jambes
qui a tué sa femme. Ouais.
Ouais. Non, il paraît qu'il a. Non,
il a pris peur.
Non, vas-y, oui, on va pas faire une Marie Trintignant, on va passer à autre chose.
Vas-y.
Il y a eu un autre truc. C'était les cyclistes contre les chevaux. En 1977, il y a eu un Belge, Freddy Martins, une fois, qui a perdu une course d'un kilomètre. En 2011, il y a eu le Français Thomas Vauclair, Cocorico. Lui aussi, il a perdu, mais de peu. Mais j'ai regardé les images, il a un peu triché.
Oh, le bâtard.
Il était à dos de cheval.
Cheval ou le vélo?
De quoi?
Qu'est-ce qu'il a perdu, le cheval ou le
vélo? Il y avait un moteur dans le cheval.
Le gars, il a perdu le vélo. Parce qu'en fait, c'était sur une piste. Mm-hmm. Et lui, il courait à l'intérieur. Enfin, il cyclait à l'intérieur. Et puis, donc, il avait moins de distance. Mais enfin, bref, on va pas chipoter.
Une ville.
Et en 2014, il y a un autre Français qui s'appelle Arnaud Démare. Très, très, très drôle.
Excuse-moi, j'ai pas compris ce que je voulais faire. J'ai paniqué.
T'étais censé rire à sa blague toute pas drôle, quoi.
Ouais, il a un nom drôle, Arnaud Démare.
Non,
allez, on la garde.
Démare parce que.
Voilà, il démarre. Et puis lui.
Oh, putain, je viens de comprendre.
Et lui, il a gagné.
Ah, ah bravo.
Il a gagné, c'était à l'hippodrome de Vincennes.
Est-ce qu'il a fait un faux départ des mains? Je sais pas.
Non.
Allez, vas-y.
On... Il y a eu encore d'autres matchs encore plus insolites que
allez.
Ça. Il y a eu l'homme contre une autruche.
Oula. Mais quoi comme match? Une course ou une baston?
Une course. Une course.
De... match de poker.
Scarabox, c'est super.
En 2009, donc l'autruche, il faut
Gasparov
savoir que c'est...
Gasparov contre Sharky aux échecs.
L'autruche, c'est l'animal bipède le plus rapide. Et l'homme en question, c'était Dennis Northcutt. C'est un joueur de la NFL qui jouait pour le Detroit Lions. Ils ont fait deux matchs. Oui, mademoiselle.
L'autruche est le bipède le plus rapide.
Oui, l'animal bipède le plus rapide.
Ah ouais?
Bah oui.
Genre voilà. Une autruche, quoi.
Bah, les guépards, ça a
quatre pattes. Pieds.
Oui, non, mais oui, mais c'est bizarre, quoi.
Ton imitation de l'autruche était absolument géniale. <C'est... rire>
On l'aurait dit si, là, nous, là.
On vous la fera en gif. Et donc, ils ont fait deux matchs.
Donc, ils ont fait deux matchs. Le premier, c'était côte à côte. Donc, Denis, il a couru à 30 km par heure, donc c'est quand même énorme. Pour, si je me rappelle bien, 37 mètres. Donc, ça fait 40.
Ça fait un Val d'Aran de Besançon, on est là.
Putain.
Voilà. Allez, on le laisse faire son sujet.
Il a couru donc en 4,75 secondes. L'autruche a perdu. Elle a fait que 22 km. Elle a couru à 22 km par heure.
Ce qui est pas mal.
Ouais. Et, mais après, ils ont fait un deuxième test. Parce qu'en fait, ils étaient séparés par une grille. Mm-hmm. Et ils ont dit. Parce que l'autruche, elle peut aller quand même jusqu'à 72 km par heure.
Putain ouais.
Ah
c'est,
oui.
C'est pas rien.
Ah, c'est un scooter débridé.
Et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait en fait.
En forme, ce jour-là.
Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis l'autruche et puis le joueur derrière. Comme ça, quand il court, l'autruche aura un instinct de survie.
Elle va
tracer. Parce que tu voyais bien dans le premier match que.
Elle
était pas chaude,
elle
était pas motivée. Et du coup, ouais, il a perdu au deuxième match.
Donc égalité, quoi. Affaire à suivre.
Ouais. Mais il y a eu encore un autre match, enfin d'autres matchs encore plus insolites. C'était l'homme contre un guépard.
Ah voilà, enfin.
Ah, voilà.
Mais pareil, c'était un peu. Enfin, ils ont fait un test virtuel.
On met le guépard derrière.
Vas-y, instinct de survie de l'homme, on va le tester.
Donc Usain Bolt, c'est quand même l'homme le plus rapide du monde. Il a battu le record de 100 mètres dans les Jeux Olympiques à 9,58 secondes. Il a couru à 45 km par heure. Un guépard, ça court à 112 km par heure.
Vroom.
Ça fait un 0 à 100 km à 100 km par heure en 5,9 secondes.
Sérieux?
Ouais, c'est quand même
c'est
énorme.
Presque aussi rapide qu'une Tesla.
Et pour que Usain Bolt gagne, il faut, donc pour une course de 100 mètres, il doit être en avance de 5,9 secondes. C'est quand même...
C'est la moitié du temps, quoi. Un peu plus que la moitié, même.
Et du coup, ils ont quand même fait un vrai match, pas avec Usain Bolt. Donc, le guépard d'un côté...
Usain Bolt était simulé.
Donc, le guépard d'un côté et puis un type de l'autre. Ce type, il s'appelle Devin Hester, c'est en 2013. Lui aussi, il joue à la NFL. Il joue pour le Chicago Bears, si ça vous intéresse. Il l'a fait, il l'a gagné.
Classe.
Mais il y a toujours un mais. Il a eu un avantage de 30 mètres déjà.
Ouais, donc il a pas gagné du tout.
Il a pas gagné du tout.
C'est quoi
mais attends, je te rappelle que 112 km par heure, c'est quand même énorme.
Oui, non, mais donc, si jamais tu avantage, un guépard unijambiste.
Un avantage, laissez-moi finir. Un avantage de 30 mètres, mais surtout ce qui a joué dans sa faveur, non, c'est qu'ils ont fait deux allers-retours.
Ah, le guépard a du mal à faire demi-tour.
Juste, non, mais c'est vrai, il va tellement vite que pour faire 180, c'est.
Ouais. Après, il tombe dans les pommes, il fait une sieste. Puis 10 minutes plus tard, il fait le retour. Et donc, il a gagné.
Il a gagné.
Ne les écoute pas. Vas-y.
Cette chronique n'a aucun sens.
Moi, je suis avec toi, t'inquiète.
Ce sont des faits réels.
Simulés, mais réels. Réellement simulés.
Mais, mais avec 30 mètres d'avance. Mais réel. Mais bon, simulé.
C'est une aussi grosse arnaque que l'histoire de ton Yeti, quoi.
Je vous emmerde. C'est... Allez, prochain match. Homme contre kangourou.
Ah, mais là, du coup, c'est une course.
Là, c'est de la boxe.
Ah, match de boxe, excellent.
Là, c'est d'accord. De la boxe. Mais par contre, quand j'ai vu des images, le pauvre petit kangourou.
Mais c'est un bébé.
Non. Ils ont pris un vrai kangourou avec des gants de boxe. Donc, tu le vois, il est vraiment mal à l'aise. Mais oui.
Attends, t'as regardé Tex Avery, c'est pas possible.
Non.
T'as jamais vu un match de boxe de kangourou?
Ben non.
Mais faut sortir le dimanche.
Donne-moi les tests.
Eh ben, figure-toi qu'en 1966, Woody Allen lui-même a enfilé les gants.
Et s'est battu contre
un kangourou
sur un plateau télé.
Sur un plateau télé. Merci, Juan.
Tu sais tout, Juan. Ouais,
pardon.
Tu es notre lumière.
Et c'est, tu as vu la vidéo, toi?
Ah bah oui.
Elle est drôle. Moi, je la trouve drôle, oui. Même si le kangourou, il fait pitié. Mais
Woody Allen aussi, il fait un peu pitié.
Oui, bah, tout cas, c'est Woody Allen, quoi. Mais le moment qui m'a fait le plus rire, c'est...
Quand il s'est tapé sa fille.
Non, c'est l'arbitre.
Allez, c'était gratos. Vas-y, enchaîne.
C'est l'arbitre qui est en train
de placer.
C'était l'arbitre qui est en train de pousser. Mais laissez-moi faire ma chronique, bordel de merde. C'était l'arbitre.
Du Juan.
Vas-y, moi je suis avec toi, t'inquiète.
C'est l'arbitre qui est en train de pousser le kangourou pour le chauffer, pour se battre. Je m'en bats les couilles, je continue. Vas-y. Pour se battre contre Woody Allen. Et il a tellement fait chier que le kangourou, en fait, il a chopé l'arbitre, il a foutu un dropkick. C'était trop drôle. Mais ceci dit, c'était un vrai sport. Depuis 1891,
l'affrontement de boxe
en Australie
contre, ouais, les kangourous.
Homme boxe, enfin homme kangourou, ouais. c'était un vrai sport en Australie ou aux États-Unis. Mais sinon, il y a eu un autre match.
Attends, excuse-moi.
C'était l'homme contre un ours.
Oh, ah, mais c'est de pire en pire.
Et là, c'était un match de boxe aussi.
Non, mais ça, c'est DiCaprio, c'était simulé aussi.
Non, mais par contre, justement, donc l'ours, il avait des gants et tout. C'était une vidéo, je suis tombé dessus, une vidéo sur 1930.
L'ours, il avait des gants, mais ouais. Qu'est-ce qui se passe?
Au début, j'ai cru.
Quelqu'un peut me dire comment on a réussi à enfiler les gants sur l'ours?
Mais laisse-moi finir, justement. Au début, j'ai tellement cru, et le moment où je me suis dit, non, mais c'est du fake.
C'est quand l'ours, il fait une balayette?
Non, c'est quand l'arbitre.
Ça trompe.
Il sonne la mi-temps, enfin, je sais pas, il dit que c'est la mi-temps, enfin que c'est la fin du round.
C'est l'ours qui prend une
et là tu vois, et tu vois l'ours qui s'assoit et puis son coach qui le ventile avec comme ça. Je me suis dit, bon, on s'arrête là, je regarde même pas la fin.
Néanmoins, il existe une version vraie de cette histoire que vous pouvez voir dans le film Grizzly Man de Werner Herzog où l'être humain n'a pas survécu.
Ah
voilà, merci. Ah.
Comment niquer l'ambiance.
Il y a aussi le film avec DiCaprio là,
The Revenant, mais ça c'est une fiction par contre.
Écoute un peu le podcast en live au moins.
Allez,
prochain match.
Encore?
Eh oui. Allez. Donc il y avait Jesse Owens contre Julio Macau. Jesse Owens, il est super connu. Je suis sûr que vous le connaissez. Il a gagné 4 médailles d'or au JO de Berlin en 1976.
Oui.
Non mais sérieux.
Ah, j'étais devant ma télé, j'étais comme un.
Non mais c'est des images qui. Enfin moi, quand j'ai vu l'image, ça m'a directement parlé. C'est un Renoir qui a gagné devant Hitler.
Donc, oui, c'est vrai, d'accord. Ouais. Voilà.
Donc ouais, en 1936, il allait à Cuba contre Julio Macau. Julio Macau, c'était un cheval. Il a gagné. Il a gagné en 100 mètres avec un départ encore une fois avec 37
avec
mètres d'avance.
92 mètres d'avance.
Il a gagné à 60 mètres.
Ouais, mais du coup, bah le cheval,
c'est
il
quoi,
était derrière.
Ce truc de merde. Ouais, nous les humains, on est les plus forts. On va faire en sorte de quand même gagner. On va prendre de l'avance, mais c'est.
Mais
pas grave.
Justement, il a dit une phrase qui est totalement vraie. Il a dit I feel like a freak. Parce que justement,
nos auditeurs non anglophones.
Je me sens comme un monstre,
une aberration.
Un mec chelou.
Parce que justement, le forcer à faire des trucs comme ça, faire des matchs contre des trains, des voitures ou des chiens. Et justement, donc, ce genre d'événement, c'est surtout pour des événements de télé en fait, pour Discovery, machin. Donc Phelps, c'était la Shark Week. Il y a eu aussi le Cheetah Week. On va comprendre pourquoi. Bon, ça existe vraiment.
J'ai rien compris.
Cheetah,
c'est
guépard.
Ah,
Week, c'est la semaine.
D'accord. En deux mots.
Oui.
Et juste pour conclure, il y a eu une émission qui est passée sur la Fox, qui s'appelait Man vs Beast, qui est passée en 2002. Mais c'est du gros Fox, quoi. Un truc bien américain.
C'est les renards ?
Non, Fox News, Fox, la chaîne Fox.
Je me barre.
Ils ont fait une émission où il y avait, genre, entre autres, un concours de bouffe de saucisses de hot dog contre un ours. Et j'étais mort. Les vidéos sont sur internet, les gars.
Avec
il faut vraiment
maillot.
Le voir. Donc tu vois en fait il devait bouffer 50 saucisses et donc il y avait l'ours contre un japonais qui s'appelait Takeru Kobayashi. C'est le champion du monde pendant 6 ans d'affilée quand même.
De mangeage de saucisses.
Ouais. Et il a donc contre lui il a perdu. Il a bouffé 31 hot dogs contre 50. Et il y avait un dernier truc. Je suis obligé de la mettre. Une vidéo, mais vraiment typiquement américaine pour moi. C'était une course de 44 nains contre un éléphant. Et tous les deux.
Je me sens mal là.
Et tous les deux.
Combien de morts?
Tous les deux étaient en train de. C'était une course. Ils étaient tous les deux en train de tirer un avion, un Boeing.
Oh putain.
Je te jure, les vidéos sont sur internet. Tu tapes Dwarfs versus Elephant.
Excuse-moi, Karim, tu peux ramasser mes synapses, s'il te plaît, ils sont tombés par terre.
Et voilà, et c'est l'éléphant qui gagne,
by the way.
Mais de peu.
J'ai l'impression d'avoir pris un coup de perceuse dans le cerveau.
Non, mais... de hot
c'est du Fox, les gars, c'est du Fox.
L'éléphant gagne de peu, mais les nains avaient 200 mètres d'avance. Hein. Et bah ouais, ouais,
merci.
On va pouvoir.
J'ai beaucoup apprécié la vulgarisation de ce sujet.
Ah bah nous, moi, c'est la science.
J'ai juste une question parce que t'as pas dit qui avait gagné entre Woody Allen et le kangourou, mais
c'était juste une émission, c'était une émission
télé. Je comprends que c'était pas un vrai combat. L'arbitre qui avait perdu.
Oui.
Bon, merci. Dommage.
Vous l'aurez compris, on est premier sur la vulgarisation scientifique, la philosophie, l'art, tout ça. On est au top. Non, mais c'était intéressant, mais j'ai
oh, c'était marrant.
J'ai l'impression d'avoir regardé l'intégrale d'Anima d'un coup là. Ça me fait un peu mal.
Des fois, j'ai envie de mourir.
Et là, deux fois. Allez, bah du coup, en parlant d'envie de mourir, t'aurais pas un petit sujet secret là?
Si, j'ai un sujet qui va vous donner envie de mourir.
Recherché par Interpol pour des condamnations multiples dans plus de 17 pays, ça y est, ça revient à la mémoire.
La police, dans quel but?
Dans quel but? Dans le but de vous faire coffrer qu'à Paris.
Je vais vous parler de Interpol.
Le groupe de punk.
Tu nous as fait un petit hommage à Claude Rich.
Absolument.
C'est tellement mignon.
Merci de l'avoir remarqué.
Et merci de nous faire bader aussi. Il y a un mort, je vais le relever.
Je sais pas qui c'est.
Panoramix.
Un comédien.
Je suis pas tout seul.
Le mec dans Oscar.
Ah oui, voilà. Oui, le druide. Voilà. Bon,
oui, mais pas
donc,
dans Oscar.
Donc Interpol.
Je vais vous parler d'Interpol. Ça vient d'une petite enquête personnelle. Vous savez comment on trouve des sujets, hein. Des fois on cherche, des fois on nous les propose, et des fois bah, ça tombe tout seul. Des fois on a 2-3 conversations qui reviennent dans la même semaine, et puis on se rend compte que Interpol, bah, y a pas grand monde qui sait ce que c'est en fait.
C'est vrai, oui.
Donc je vais vous dire, si vous le savez, ne le dites pas, mais combien d'entre vous savent vraiment ce que c'est qu'Interpol?
Plus ou moins.
Moi je sais un petit peu quand même.
Ouais, un petit peu.
Bon,
j'ai beaucoup d'un petit peu, c'est normal.
Je trouve
normal.
Que vous la pétez parce que moi j'avoue que non.
Bah très bien, quelqu'un apprendra quelque chose. Non, c'est vrai que beaucoup, tout le monde est sûr de l'à peu près, mais finalement il y a assez peu de gens qui savent exactement ce que c'est, alors que c'est pas compliqué finalement. Donc la partie chiante, je vais vous faire un petit peu de chronologie. Interpol, ça démarre pas loin, en 1914. En 1914, on avait le congrès de police judiciaire internationale, où on a constaté que le manque de coopération policière entre les pays, ça facilitait la tâche des fugitifs. Tu faisais une connerie en France,
tu partais en Belgique,
tu te barrais, bah la police belge ne savait pas qui tu étais.
Oui, donc,
on ne fera pas de blagues sur les Belges, vas-y.
T'étais tranquille. Et donc en 1914, à ce congrès, on s'est dit, c'est chiant, on va travailler là-dessus. Le problème, c'est comme ça se passait en 14.
Tous les pays n'étaient pas copains.
Bah, ils avaient d'autres trucs à faire surtout.
Bah, en 14, au début en tout cas ça allait, mais on a commencé à travailler, puis on a été comme distrait par un truc.
Suite à une balade en forêt.
Voilà. Qui s'appelait la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc évidemment, un petit peu de stand-by, la Première Guerre mondiale passe. On arrive en 1923, où on va pouvoir se repencher un petit peu sur l'idée et créer la Commission internationale de la police criminelle. Ça, c'était l'initiative du directeur de la police de Vienne, en Autriche, qui s'appelait Johann Schobert, et qui s'est dit, bah, ce truc qu'on avait commencé en 14, c'était une bonne idée, on va peut-être s'y remettre.
Interpol, hein, pas la guerre.
Oui. Bah...
Je préfère préciser.
Donc il commence un gros travail de mise en relation, en fait, entre les différents pays, bon, pas tous hein, pour l'instant, mais déjà différents pays, pour voir comment on pourrait commencer à travailler ensemble pour avoir un suivi sur des criminels à l'international. Le problème, c'est que bah, on avance, on arrive vite en 1939.
Et là, nouvelle balade en forêt.
Nouvelle balade en forêt, Deuxième Guerre mondiale, et figurez-vous que l'Autriche... Bah, okay. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des gens en Autriche qui s'appelaient les nazis, qui se sont dit, tiens, ce petit organisme là qui relie tous les criminels de différents pays, bon, on va s'en occuper un petit peu.
Je sais que c'est un podcast de vulgarisation, mais bon, on a quand même.
C'est quoi les nazis?
Les nazis, c'est les méchants.
C'est Autriche ou nazi que tu.
Bien, non, mais je préfère préciser parce que bah, tout le monde ne sait pas forcément que Vienne est en Autriche, donc. L'organisation est assimilée par le régime nazi, donc c'est la merde jusqu'en 1946, où les alliés, donc notamment la France, la Belgique, le Royaume-Uni, vont se remettre en commun pour recréer cette organisation qui s'appelle encore pour l'instant la Commission internationale de police criminelle. Elle changera de nom en 1956 pour s'appeler Interpol. Interpol qui veut dire...
International Police.
Bah, c'est pas long, t'as oublié deux mots, mais c'est ça. International Criminal Police Organization, mais je sais pas pourquoi ils ont gardé les trois premières lettres que de Nemo, sûrement qu'ils avaient la flemme. Donc Interpol,
à... mieux.
Bah oui. Interpol, à quoi ça sert, du coup?
En fait, déjà,
bah, tu l'as dit.
Qu'est-ce que c'est?
Bah, moi, à la qu'est-ce base, que c'est? Je viens de te dire, c'est une organisation.
Je pensais que c'était des vrais gens.
Ah, ce sont des vrais gens, bah, Interpol. Ouais. Ah bon. Mais on va voir la subtilité, c'est là que beaucoup de gens font des erreurs, on va y venir juste après. D'abord, on va parler de à quoi ça sert. Donc Interpol, ça sert à faire coopérer les services de police, pays, ouais. Voilà, de aujourd'hui 190 pays, c'est-à-dire quasiment tout le monde en fait. Hein.
C'est un gros Excel où chacun met le nom des méchants.
C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est une bonne métaphore, on n'est pas très loin. Donc pour se synchroniser, Interpol a 7 bureaux, un petit peu partout dans le monde, et elle emploie, à votre avis, combien de monde?
Beaucoup, franchement, je pense.
Non,
que...
moi je pense pas justement.
Bah, allez-y, donnez-moi un chiffre.
10 000 personnes.
Combien?
10 000.
10 000.
Moi j'aurais dit pareil.
10 000?
115.
115?
Moi je dirais un peu moins que 10 000, mais par milliers quand même, genre 5 000.
Ouais, 500.
Ben c'est toi qui es le plus proche. On est entre 800 et 1000 personnes à peu près.
Oh,
c'est pas énorme, mais faut garder en tête
que.
T'es
pas le patron pour rien.
Interpol, c'est un service d'information.
Il a les sujets en avance.
C'est pas un service opérationnel, donc elle a pas besoin en fait d'énormément de force de frappe à proprement parler.
Oui, je pense que c'est ce que Karim voulait dire par je croyais que c'était des vrais gens.
Oui, ben c'est pour ça qu'on va y venir.
C'est un service de coordination en fait, plus que d'enquête.
C'est un service de coordination principalement.
Mm-hmm. Pas recherché par Interpol.
Tu n'es pas exactement recherché par Internet.
Mais retweeté par Internet.
Ouais, c'est ça.
Juste pour info, comme ça, je vous balance ça comme ça, mais le budget annuel d'Interpol, c'est environ 80 000 euros.
C'est tout?
Quoi? C'est que dalle.
Et ils payent 800 personnes avec ça?
Non, c'est 80 millions.
Ah. Et ils payent 800 personnes avec ça.
Voilà. Et c'était un service qui était. Bon, qui fonctionnait comme une administration normale, mais qui, depuis les environs du 11 septembre, est consultable 24-7, comme disent les Américains. Donc, comment ça marche?
Et
c'est surtout
ça
qui nous intéresse. Les Anglais, mais 24-7, je crois que c'est surtout les Américains. Donc, Interpol, ce n'est pas une brigade d'intervention.
Non.
Bah non.
Que dans les films.
Bah oui. Et quand les films font intervenir Interpol, généralement c'est que ce sont de bons gros films de merde. On tira notre chapeau à Karim Debbache qui avait fait une émission sur Hitman, en précisant qu'en effet c'est complètement stupide de faire intervenir Interpol sur ce genre de situation. Donc Interpol, c'est pas une brigade d'intervention, et ils peuvent pas éditer de mandat d'arrêt en fait. Interpol, ils peuvent pas dire ce mec je l'aime pas, on va l'arrêter.
Il y a pas d'autorité mondiale.
Il y a pas d'autorité mondiale, exactement. En fait, Interpol.
Les États-Unis, mais bon après ça.
C'est à discuter. Mais Interpol, en fait, leur rôle c'est d'éditer ce qu'on appelle des notices. Imaginons, je sais pas, on va prendre l'exemple de Julian Assange. Vous voyez tout ce qui est Julian Assange, le créateur de WikiLeaks. Voilà, le créateur de WikiLeaks a eu pas mal de soucis judiciaires, notamment avec la Suède, parce qu'il a été accusé de viol.
Oui. Donc là,
bah,
sur
mineur, tu sais.
En plus, je crois.
Pardon ?
Sur mineur, non ?
Je sais plus si c'est
pas
un viol sur
grand-mère,
sur mineur.
En tout cas.
Non, pas sur grand-mère. C'était vraiment important. Je suis content que t'aies relevé ça. et donc la Suède a émis un mandat d'arrêt pour Julian Assange. Ouais. On veut ce mec. Ok, Interpol, là son rôle c'est de dire bah, il faut qu'on dise à tout le monde, à tous les services de police du monde, que la Suède veut ce mec. Mais c'est pas nous qui allons l'arrêter, c'est pas nous qui allons faire le mandat d'arrêt, simplement on va faire passer l'info.
C'est une sorte de wanted quoi.
On peut dire ça, bah, justement c'est une très bonne métaphore, ce serait comme les posters wanted que t'avais sur les saloons au Far West, sauf que tu l'as sur tous les PMU du monde.
Ah oui.
En gros.
Oui, vu que. Non, pardon, vas-y.
Non, non, t'allais dire quelque chose d'intéressant.
Tous les PMU, mais tu sous-entends que tous les flics vont au PMU en fait.
Source d'information numéro 1.
Fake news.
Pardon. Vas-y.
Salut. J'assume pas du tout ce que tu viens de dire. Donc on va parler un petit peu des notices. La plus connue, c'est la notice rouge. Donc c'est en gros un avis de recherche international. Comme pour Julian Assange, c'était une notice rouge qu'il a reçue.
D'accord.
On veut ce mec, démerdez-vous pour qu'on l'ait.
Ça me fait penser à la lettre dans Harry Potter. Continue.
La lettre qui t'engueule. C'est pas tout à fait ça, mais on pourrait faire un parallèle. Les notices sont aussi des notices bleues qui sont des notices de renseignements. Qu'on veut des renseignements
sur
ce mec. Voilà,
ouais.
Potentiellement, on aimerait en savoir plus. Les notices jaunes qui sont pour retrouver une personne disparue. Alors, j'ai pas d'exemple pertinent. Je n'ai pas trouvé des particulièrement pertinents.
Mais si.
La petite Maëlys.
Si, le mec dont on est absolument fan. Enfin, fan.
Ah, Xavier Dupont de Ligonnès.
Xavier Dupont de Ligonnès. Non.
Ah,
qui cette personne?
Vous avez des loisirs.
Bah écoutez, je ne sais pas si on a émis une notice jaune pour Xavier Dupont de Ligonnès, néanmoins on peut le vérifier. Parce que le site d'Interpol en fait a une partie privée et
d'accord.
Une partie publique. Et encore une fois, c'est le pays qui a émis le mandat d'arrêt qui va décider de ça. Par exemple, pour Julian Assange, ils ont
mis ça, ils ont dit à Interpol, vous pouvez le mettre sur votre site privé, donc pour tous les services de police, et aussi sur le site public. Vous, moi, on peut aller sur le site d'Interpol et aller voir les notices rouges, et une grosse partie est disponible, notamment bah, potentiellement celle de Julian Assange, puisqu'elle a été, elle a été reconduite en 2016, d'accord, si je dis pas de bêtises. Dans les notices, on a aussi des notices noires, c'est des informations sur des personnes décédées, un choix ouais, de bon goût donc. Et celle que je trouvais le plus intéressante, moi, c'est les notices mauves. Les notices mauves, c'est sur les modes opératoires. Alors toi, tu nous parlais de narcos tout à l'heure. Ça concerne particulièrement ce genre de choses. C'est-à-dire comment on fait pour passer de la drogue d'un pays à l'autre. Si on découvre une nouvelle méthode, bah, le pays peut créer, demander à Interpol de balancer une notice mauve qui explique que maintenant, on se met des capsules Kinder dans le cul pour faire passer de la drogue.
Ça, c'est public ?
Alors, les notices mauves ne sont pas publiques, dommage, je ne pense pas. Principalement, tu vas avoir des notices rouges et des notices jaunes sur le site d'Interpol. Mais je vous invite à aller voir si vous êtes curieux ou vous avez des gros problèmes sociaux. Vous pouvez passer des bonnes soirées sur le site d'Interpol. Donc, par rapport au futur, Interpol, en fait, c'est un fonctionnement assez fixe, mais ils sont en train de se développer sur la cybercriminalité. Donc, ils ont créé un complexe qui s'appelle le complexe Interpol mondial de l'innovation. Je ne me rappelle pas où c'est. Je crois que c'est en Inde qu'ils ont créé ce bâtiment-là. Sachant que le siège d'Interpol actuellement est à Lyon.
Ils sont tous en Haïti.
En Haïti. Oh. Ah, ok. Le siège est à Lyon. Il y en a un peu partout. Et ils ont créé donc un nouveau bâtiment en Inde pour se concentrer sur la cybercriminalité. Ils ont quand même encore du taf puisqu'on a un petit problème qui s'appelle le terrorisme et qui prend pas mal de temps à Interpol. J'espère que c'était un petit peu plus clair.
Pour oui,
yes, tout à fait. Interpol. Il n'y avait pas une notice verte aussi ?
Alors, il y a beaucoup d'autres notices, en fait. Il y en a... Enfin, pas beaucoup. Bio. En vrai, il doit y en avoir 3 ou 4 de plus. Mais il y en a qui sont pas intéressantes du tout et que j'avais vraiment pas envie de vous présenter, par
est-ce
exemple.
Il y a des notices pour les gentils. Genre, lui, il est gentil, si tu le vois, donne-lui un bon
goût. La notice bleue, potentiellement, une notice d'information et pas forcément belliqueuse. C'est pas forcément des informations qui peuvent poser problème. Il y a aussi des notices... des notices de bureaux en fait internes au service de police dont on se fout complètement et qui nous concernent pas du tout, donc j'ai pas voulu vous faire un listing. Déjà que c'est un peu chiant comme sujet, je vais pas non plus rendre ça encore plus chiant. D'ailleurs, je crois qu'on va s'arrêter là.
Bah cool, cool, cool. Effectivement, on a des sujets c'est différent. La guerre d'Algérie, les combats d'animaux et Interpol, c'est ça brasse, ça brasse.
Ça brasse de l'air.
Non, surtout. Non, j'ai trouvé ça vachement en fait. C'est cool, effectivement. Du coup, je verrai plus les films de série Z pareil.
Bon, il n'y en a pas beaucoup des films où ils font intervenir Interpol. C'est vraiment qu'il n'y a aucun effort d'écriture, comme dans le Hitman de Christophe Gans.
Tu l'as vraiment pas aimé ce film, toi.
Bah, si une personne l'a aimé, je me ferai un plaisir de lui péter les deux jambes pour qu'elle puisse ensuite être tranquille pour m'expliquer pourquoi.
Bah, allez, je vais prendre le relais et parler d'un peu de la magie de la nature.
Le mot du jour est donc ce matin gélatineux.
Ça veut dire quoi ?
Un peu gluant, mais appétissant.
Ben voilà !
Ouais, un peu gluant, et vous allez voir pourquoi. Donc, je vais vous parler d'un petit truc qui s'appelle le blob. Alors, si j'utilise le terme blob, c'est que c'est reconnu par pas mal de chercheurs en fait. Même les chercheurs du CNRS l'appellent comme ça.
Oui.
C'est assez pratique.
Son vrai nom.
Voilà, c'est pas son vrai nom, c'est un petit surnom bien reconnu, en tout cas en France.
On dirait que tu vas nous parler du Kloug dans...
Non, c'est quand même un petit peu plus puissant.
Non, mais ça ressemble un peu à un Kougloff.
Et c'est quoi son vrai nom du coup ?
Ah voilà, merci. Son vrai nom c'est Physeorum polycephalum.
C'est souhait.
Voilà, et en fait, ce qui est intéressant c'est que...
Il a plusieurs cerveaux.
C'est... Alors, non mais c'est une image. Tu vas voir pourquoi. Et c'est pas un animal, c'est pas un végétal, c'est pas un champignon, mais...
C'est un blob.
Voilà, mais il fait quand même des trucs de ouf. En fait, c'est un mix, ce qu'on appelle un mixomycète. Donc littéralement, ça veut dire champignon gluant, même si c'est pas un champignon. Mais en gros, c'est un gros truc gluant. Et visuellement, en fait,
ouais, ok, vas-y, t'inquiète.
Et visuellement, en fait, c'est entre la mousse, l'éponge, la pâte à modeler. Enfin voilà, ça se trouve généralement dans les forêts, les trucs un peu humides. Donc si vous vous baladez en forêt, vous pourrez en trouver.
On ira à Vincennes, on ira voir s'il y a des blobs.
Voilà, c'est clairement possible. Ce qui est ultra intéressant en fait, c'est que c'est un organisme unicellulaire, donc une seule cellule, et que ça peut faire jusqu'à 10 mètres carrés. Donc c'est énorme. Pour une seule cellule, ça peut faire jusqu'à 10 mètres carrés.
Non.
Et ça, c'est la taille observée, c'est-à-dire que sur le papier, ça pourrait être beaucoup plus grand. C'est juste qu'en labo, plus de 10 mètres carrés, ça commence à être le sbeul et.
C'est un gros microscope.
T'as pas vraiment besoin là. Hein.
10 mètres carrés.
Voilà, merci.
C'est un microscope.
Ça grossit, enfin j'imagine que tu vas y venir, mais ça grossit par assimilation en fait.
En fait, alors déjà ça peut doubler de taille tous les jours si tu leur donnes bien à manger.
Qu'est-ce que ça mange ?
Voilà, pour l'alimentation, j'y viendrai. Là, je vais juste faire des petits rapports de taille.
D'autres blobs.
Là, déjà pour notre corps humain, on a à peu près 100 milliards de cellules. C'est beaucoup.
Je dire qu'on a 100 milliards de blobs.
Non.
Bah, à peu de choses près, oui.
On a 100 milliards de cellules et une cellule est de l'ordre de 10 micromètres. Le blob, il a une cellule et il peut faire jusqu'à 10 mètres carrés. Donc c'est le rapport de taille, c'est comme si vous compariez le point de votre main avec la Terre. Donc le rapport de taille est quand même assez monumental.
C'est plus grand.
Oui, exactement.
Champion.
Alors bon, il y a une seule cellule, gâteau. Mais il y a plusieurs noyaux. C'est-à-dire que quand le blob grandit, en fait, il va y avoir une division du noyau, etc. Donc il va y avoir de plus en plus de noyaux, mais ils vont tous rester dans la même enveloppe, la même cellule. Ça, on va pouvoir penser effectivement au sujet d'Elodie dans l'épisode 7 qui nous parlait des sens. Effectivement, là, on a un organisme qui a une cellule, mais cette cellule va porter tous les sens de cet être vivant. Donc c'est assez intéressant, c'est vraiment un espèce de génie.
C'est intéressant, mais tu me rappelles beaucoup, beaucoup trop mes cours d'SVT de terminale.
Non, tu verras, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ce qui est rigolo, c'est qu'il n'a pas de système nerveux, pas de cerveau, et pourtant, il est capable d'apprendre et de résoudre des problèmes. Donc c'est assez ouf.
Tu as captivé mon attention, ça y est.
Ah, tu verras, ça va à
crescendo. Pourquoi ? Parce que t'as un cerveau et que t'arrives pas à résoudre des problèmes, c'est ça ?
Donc ça a paru 500 millions d'années avant l'homme, et c'est toujours présent. Donc mine de rien, c'est quand même un gros gros taf. Et à l'heure actuelle, il y a toujours plus de un millier d'espèces différentes, alors que bah, pour l'homme, l'homo sapiens sapiens, il n'y a qu'une seule espèce. Donc eux, ils sont là depuis plus de 500 millions d'années. Et
Mais ils étaient là avant aussi.
Ouais, ils ont plein d'espèces. Les espèces, elles vont différer en couleur, en caractéristiques, etc.
Les barbes à papa.
Bah, c'est un peu ça. Il y a une caractéristique, donc ils ont une enveloppe, etc. Et ils vont avoir en fait un réseau de veines qui va leur permettre de transférer tous les nutriments, toutes les vitamines, etc. Pour se nourrir en fait. Ouais. Comment il va faire pour s'alimenter ? Déjà pour s'alimenter, pour chercher de la bouffe, il peut bouger ce truc. Donc il peut bouger.
Cette saloperie.
Ouais, voilà. Donc, il va pas courir le 100 mètres contre des construction bolt ou je sais pas quoi.
En hologramme.
Mais en fait, ça peut bouger de 1 cm par heure, ça va, c'est pas véloce non plus, jusqu'à 4 cm par heure s'il a vraiment la dalle. Et là, si je dis ça, c'est que vraiment, je tiens ça d'une chercheuse, donc voilà, c'est pas inventé.
C'était écrit vraiment la dalle ?
Oui, bien sûr. Non, Alice, il est très affamé, je cite.
C'est la vitesse d'un escargot à peu près, non ?
Je n'ai pas d'escargot.
Non, c'est plus rapide que ça, un escargot.
On peut y remédier.
D'accord, prochain épisode, il y aura un épisode.
Chers auditeurs.
Cher Papa Noël. Pour se déplacer, comment il va faire, vu qu'il a qu'une cellule, il a pas de bras, il a pas de jambes,
il roule.
Il y a un truc une fonctionnalité motrice. Non, il roule pas, en fait, il va y avoir des pulsations dans son cytoplasme, donc l'intérieur de sa cellule. Et en fait, il va avoir un système de. C'est comme s'il faisait deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière. En fait, c'est comme s'il prenait son élan à chaque pas. Élan. Donc il fait un pas en arrière pour prendre son élan, il avance de deux pas, etc.
Et ouais. Comme toi, Carrie.
Et une caractéristique c'est qu'il va envoyer des petits bras, des petits filaments un peu partout en fait, pour se déplacer, pour explorer l'espace autour de lui. Et c'est pour ça qu'on dit polycéphalum, c'est parce que c'est comme s'il avait plein de petits cerveaux qui l'envoyaient.
Voilà. Mais t'as dit qu'il avait pas de bras, qu'il avait pas de cerveau, moi je comprends plus rien.
C'est des images.
À la radio, il n'y a pas d'image. Putain, bon. Je suis désolée.
Un truc qui le caractérise, c'est qu'il est sur le papier immortel. C'est-à-dire qu'en fait, quand il n'arrive pas à se développer suffisamment, qu'il n'a pas assez de bouffe, etc., il peut se laisser sécher et il peut rester dans cet état pendant des années. Et pour revenir à la vie, il suffit qu'il soit un peu hydraté, un peu de bouffe, et il repart comme en 40. Mais quand on part comme en 40, c'est-à-dire qu'il repart avec une cellule comme neuve. Vraiment comme si elle était toute neuve, toute jeune. Donc globalement, il a une espérance de vie infinie. Et par exemple, au CNRS à Toulouse, il travaille dessus.
Vas-y, on s'en achète un.
C'est possible, tu peux en acheter en Australie, aux US et je ne sais plus où, mais c'est possible. Et donc au CNRS.
Ils font livrer, on le met dans l'eau et c'est reparti.
Ouais. Et donc au CNRS, ils ont une souche qui a plus de 70 ans. Donc vraiment, ça dure très très longtemps et ils sont obligés d'en jeter la moitié tous les jours parce que ça grossit, ça multiplie par deux tous les jours.
Mais alors, du coup, la moitié que tu jettes, est-ce qu'elle est vivante aussi ou pas ?
Ah bah, je vais y venir, on peut les tuer. Ce qui est rigolo, c'est que quand on le coupe en deux, en fait, on obtient deux blobs.
En gros, tu fais une mitose forcée du truc. Quoi.
Ouais. Et deux organismes différents, au bout de deux minutes, je crois que ça cicatrise. Donc, c'est assez difficile pour le tuer. Il y a quand même des moyens. Donc, soit le priver d'oxygène pendant très longtemps, soit l'exposer à la lumière.
Tu le brûles ?
Non, ça ne marche pas. On peut le priver de nourriture ou on peut le donner à manger à autre chose, donc des bactéries, etc.
Ok.
Juste petite question, peut-être je suis pas attentif, je sais pas si tu as répondu, mais le lieu de vie de cette bestiole, il me semble que c'est plutôt amazonien.
Non, partout. Tu peux en trouver à Fontainebleau.
Mais par contre, pas de lumière, c'est ça ?
Non, il aime pas trop la lumière. Il peut vivre la lumière, mais il aime pas trop. Donc, globalement,
c'est un gremlin en fait, quoi.
Bah non, parce qu'il faut lui donner de l'eau.
Ah, voilà. Ah, c'est une sacrée saloperie en tout cas.
Ouais, et il y a une femme qui en a trouvé au Texas en 1970 dans son jardin. Et elle a pensé à un alien en fait. Elle a appelé pompiers-policiers, ils ont essayé de le brûler. Ils ont essayé de l'empoisonner avec des pesticides, ils ont essayé de le découper. Et à chaque fois qu'ils essayaient en fait, le lendemain, ils retrouvaient un truc qui était deux fois plus gros. Donc ils se sont dit, putain, c'est un putain d'alien. Et en fait, un beau jour, ils sont revenus et il avait disparu. Je vous expliquerai pourquoi. Il avait disparu comme par magie, mais ils n'ont pas réussi à le tuer. Et bah, comme le disait Erwan, en fait, le nom s'est inspiré du film de 1958 avec Steve McQueen qui s'appelait Le Blob, où il y avait une substance gélatineuse qui absorbait tout sur son passage, les hommes, les choses, etc.
Oh, j'aurais pensé que c'était le film qui était inspiré de
Flubber.
Je pense que l'organisme a été découvert avant, mais le nom vient vraisemblablement du film. Donc 58 et après 88, je crois, pour le remake.
Un film bien dégueulasse d'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu quand ils étaient enfants.
Et un remake en 2016 est prévu, si je dis pas de bêtises.
Absolument.
On est en 2017.
Ouais, mais il est pas fini.
Il doit être en fin de programme.
Si t'as d'autres questions, tu dis, hein. Bon, allez, on va parler de bouffe. Qu'est-ce qu'il mange ce truc-là? Bah, il est dans les sous-bois. Donc, il a mangé des bactéries, des champignons, et il a une méthode d'assimilation. En fait, il va les englober et il va les digérer à l'intérieur. Il va pas absorber les trucs à distance, etc., comme font des champignons. En laboratoire, c'est un peu la galère pour avoir plein de bactéries ou plein de champignons parce que ça bouffe ce truc-là. Et il lui donne à bouffer des flocons d'avoine. Donc, autrement, il lui donne à bouffer du muesli. Mais genre des boîtes que t'achètes au supermarché,
c'est
quoi.
C'est un bloc bio, quoi.
Et il raffole de ça. Alors, pas forcément parce que tous n'aiment pas les flocons d'avoine bio. Voilà, c'est vrai, c'est pas une blague, hein, c'est pour de vrai.
Ah bon. Ok.
Il a une capacité de
ouf. Faut trier les raisins avant.
Ouais, il a une capacité de ouf, c'est qu'il est capable, il a un sens, il est capable de détecter la nourriture qui est bonne pour lui avec un bon équilibre protéines-sucre. C'est-à-dire que si tu mets un blob, genre au milieu de la table, et que tu mets tout autour de la table plein de sources de nourriture qui vont avoir des teneurs différentes, dont certaines qui sont mauvaises pour lui. Certains blobs, parce qu'après ils ont des caractéristiques différentes, mais certains vont aller directement sans aucune erreur à la source de nourriture qui lui convient.
C'est chaud.
Ils ont vraiment des sens assez développés. Et voilà.
Nature me fascine.
Et ouais, mais non, c'est vraiment un organisme assez ouf. Pour la, en fait, son but dans la vie, c'est comme tout être vivant, c'est de se reproduire, mais enfin, on va pas refaire le monde. Ce qui est
comme
rigolo.
Les pupes.
Ouais, exactement. ce qui est rigolo, c'est que pour Pécho, le blob, il a beaucoup moins de soucis que pour nous, parce qu'il y a, ils ont une reproduction sexuée, et il y a plus de, il y a 720 sexes différents chez les blobs.
Il y a
des, avec
des combinaisons de chromosomes, en fait. Nous, on a forcément que deux trucs.
Ah bah oui, c'est vrai.
Voilà, donc eux, il y en a plus, donc ça fait 720. Et vu que c'est sexué, il faut juste un sexe différent. Donc eux, ils ont 719 chances sur 720 de trouver quelqu'un qui a un autre sexe, en fait. Donc globalement, c'est un peu la fête. Pour se reproduire, en fait, ils font du sport. Pas exactement, ils font des sports. Oh là là, je vois que ça déchaîne les foules.
On attend la suite.
Non, on était tous en train de les imaginer en train de faire du cheval d'arçon.
C'est ce que j'allais dire. Moi, j'imaginais un bloc en train de faire des haltères.
Voilà, donc en fait, quand ils veulent se reproduire, quand ils ont assez mangé, qu'ils sentent assez gros, qu'ils sont dans de bonnes conditions, ils vont former des petits bulbes qui sont assez jolis, en fait.
C'est-à-dire, ils vont sur Tinder.
Non. Il y a des petits bulbes qui sortent de leur matière. Ces bulbes éclatent et relâchent des spores, donc ça se libère dans la nature. Et les spores après partent à la recherche d'un de spores pour s'accoupler et faire un nouveau blob. Donc c'est pour ça que cette bonne femme en 1970, son blob a disparu un jour. En fait non, c'est juste qu'il est parti en mode accouplement.
Il a éclaté, d'accord. Pouf,
et là disparition parce que les petits spermatos de blob sont tout petits.
Excellent. Et il laisse rien derrière?
Non, ils laissent des petits trucs. Si tu regardes finement, oui, mais je pense que vu qu'ils ont sbeulé l'endroit à coup de lance-flamme, ils ont pas dû retrouver grand chose.
Ok.
Niveau intelligence, parce que comme on a dit, ils ont pas de cerveau, mais ils sont ultra intelligents.
Oui, ils peuvent résoudre des problèmes.
Voilà. Par exemple, ils ont fait un test, ils ont fait un labyrinthe en fait, ils ont mis plusieurs petits blobs dedans. Ils ont mis des morceaux de flocons d'avoine à certains bouts du labyrinthe et ils ont regardé ce qui se passait. En fait, les blobs étaient capables de s'assembler les uns avec les autres et de trouver le chemin le plus court pour rejoindre un flocon d'avoine. Donc, le chemin le plus court, c'est quoi? C'est qu'ils ont, ils ont exploré le truc, ils ont exploré le labyrinthe et au bout d'un moment, le réseau de veines dont on parlait au début, il était optimisé et efficace pour aller vers le flocon d'avoine. C'est-à-dire que là où il n'y avait rien, ils ont dit c'est mort, on retire nos veines et ils ont refait leur réseau pour atteindre le flocon d'avoine.
En fait, ils sont logiques, quoi.
Ah, ils sont même plus que logiques, c'est qu'il y a une autre expérience qui a été faite avec une carte. Ils ont en fait pris un espèce de, je sais pas, un terrain, n'importe quoi, une plaque. Ils ont représenté en fait le Japon, une carte du Japon. Et ils ont sur chaque
montre
ville...
Montre le
muesli. Non, mais sur chaque ville majeure, enfin ville majeure, sur chaque aussi ville importante, ils ont placé un petit morceau de muesli globalement en rapport à la taille de la ville, à l'importance de la ville. Et ils ont placé un blob au niveau de Tokyo. Et ils l'ont laissé faire sa vie. Un blob, qu'est-ce que ça fait? Ça grossit et ça bouffe. Donc il a fait sa vie, il a grandi et il a tissé après un réseau de veines entre tous ces morceaux. Et ils ont analysé ça pour... lui, il fait en sorte que ce soit le plus efficace possible. Ils ont analysé ce que ça donnait. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce réseau, ils l'ont comparé au réseau ferroviaire japonais. Et sur certains points, le réseau du blob a été plus efficace que le réseau ferroviaire japonais actuel. Donc, il y a des ingénieurs qui se sont inspirés de ça pour étudier les réseaux, etc. Donc, comment on estime qu'un réseau est efficace? C'est la capacité à joindre toutes les villes, la tolérance à la panne, etc. Donc c'est le génial. Blob avait tout compris.
C'est magnifique.
Oui, mais c'était sur une surface plane, alors que la caractéristique principale du Japon, c'est que il y a
des très montagnes. Montagneux.
Bah, justement, détail, vu que le blob n'aime pas la lumière, ils ont mis des sources de lumière à l'endroit des montagnes pour que justement le blob n'ait pas envie d'aller là-bas. Ce qui fait que donc il évitait les montagnes et il faisait des routes, comme des voies ferroviaires, comme auraient pu le faire des êtres humains.
Ils sont pas cons les chercheurs quand même.
Bah non. Finalement.
Comme quoi.
Donc là, il est capable de faire des trucs logiques, mais est-ce qu'il est capable d'apprendre? Bon, ça, on a déjà dit oui. Mais on va expliquer pourquoi. Y a un truc que les chercheurs appellent faculté d'habituation. Donc c'est le fait de se faire à une situation. Je vais reprendre la métaphore d'une chercheuse justement qui bosse là-dessus au CNRS à Toulouse, qui est assez rigolote, était dans une salle bondée. Elle fait, bon, regardez-nous par exemple, là, il y a genre 500 personnes. Bon, ça sent le poney, on est d'accord. Elle a bien utilisé ces termes. Hein. Ça sent le poney. Mais vu que ça fait 20 minutes qu'on est là, on le sent plus en fait. Si on ressortait et qu'on rentrait, on ressentirait le poney et au bout de 5 minutes, ça irait. Donc l'habituation, c'est ça. Donc ils ont fait une expérience, vous prenez un pont avec une plateforme de chaque côté. Sur une plateforme, on met un blob et sur la plateforme, on met de la nourriture. Comme ça, il va... Voilà. Comme ça, il va avoir envie de traverser. On va avoir un groupe A pour lequel on va mettre de la caféine sur le pont. Une caféine, c'est un peu amer et ils aiment pas du tout de base. C'est pas dangereux pour eux, mais ils aiment pas du tout. Et pour le groupe B, qui va être le groupe témoin, ils vont rien mettre du tout. Donc le premier jour, les blobs du groupe A, en fait, ils vont être très réticents à traverser le pont. Ils vont mettre des heures et des heures avant de bouger la moindre petite tentacule, ou je sais pas comment on appelle ça. Mais ils vont mettre des heures à le faire. Et en fait, petit à petit, ils vont s'y habituer. Et au bout de 6 jours, les blobs du groupe A vont traverser aussi vite que ceux du groupe B. Donc déjà, ils vont s'être habitués à la substance. Donc ils ont appris quelque chose, ils l'ont retenu. Et ce qui est intéressant, c'est que si on fait le même test avec de la quinine à la place de la caféine, et ben on va se rendre compte que les blobs qui ont été habitués à la caféine ne sont pas habitués à la quinine. Donc c'est une habituation qui est propre à la substance.
C'est quoi de la quinine?
C'est un truc amer qu'il y a notamment dans le Schweppes, le Canada Dry, et ça aide à anti-palu, si je dis pas de bêtises. C'est pour ça qu'il y avait du Canada Dry dans les pays d'Afrique jadis. Voilà. C'était la petite info gratos. Voilà, on voit qu'il y a une habituation et une habituation qui est ciblée. Une habituation, elle est ciblée et en plus, elle est limitée dans le temps. C'est-à-dire que les blobs du groupe A qui ont été habitués, si on les laisse 6 jours sans toucher de caféine, enfin quelques jours, mais je crois que c'est 6, et bien au bout d'un moment, qu'on va les remettre avec de la caféine, ils vont avoir peur. Ils vont mettre du temps à s'habituer, etc.
Mais ils ont une sorte de mémoire, du coup ?
Ouais, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement à quoi elle tient.
Bah, comme les êtres humains, en fait.
On sait pas non, puisqu'au bout de 6 jours, ils oublient.
Oui, mais c'est une sorte de mémoire quand même pendant 6 jours.
Oui. Et en plus, elle est ciblée, mais effectivement, c'est intéressant, sachant que l'être humain a un cerveau et eux non. Et ils n'ont pas de système nerveux non plus, alors que ces choses-là sont d'habitude liées à un système nerveux ou un cerveau.
Mais ils ont forcément un sens, comme tu l'as dit tout à l'heure, puisqu'ils arrivent à discriminer des types de nourriture.
Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec une cellule, un être avec une seule cellule, on ne sait pas d'où ça vient à l'heure actuelle. Donc, c'est un sujet qui est étudié depuis des années et c'est toujours à l'étude. Donc, là, je vous donne l'état des recherches actuelles.
C'est fascinant.
Voilà, donc là, ils ont appris des choses et maintenant, il y a les capacités de transmission. On a dit que si on prenait un blob, qu'on le coupe en deux, ah là, ça fait deux blobs, c'est trop cool. Mais ce qui est rigolo, c'est que là, c'est en mode Dragon Ball Z, si on prend deux blobs ensemble, qu'on les met côte à côte,
qu'on
leur
fait
quoi
faire fu.
Et ouais, et ils font une putain de fusion.
Non.
Genre, ils deviennent, ils deviennent un seul blob.
Est-ce qu'ils doivent être du même sexe?
Pas que je sache, j'ai pas vu de truc là-dessus, donc pas que je sache.
Bah, ça m'étonnerait, parce que
sinon,
720
chaud, ouais.
Potentiel, ce serait compliqué.
Oui. Donc effectivement ils vont fusionner et ce qui est intéressant c'est que si on prend l'expérience d'avant, si on prend des blobs du groupe A qui ont été habitués et des blobs du groupe B qu'on va appeler blobs naïfs qui sont pas été habitués, si on les met ensemble déjà ils vont fusionner et on va voir qu'au bout de 3 heures il y a une petite veine qui va se former entre eux et ils vont communiquer jusqu'à là ça paraît normal pour partager leurs nutriments, leurs vitamines etc. Et en fait si tu prends ces deux blobs et que tu les resépares après, si tu prends avant 3 heures, donc avant que la veine se forme, le blob qui était naïf reste naïf, et après 3 heures, le blob qui était naïf devient habitué. C'est-à-dire que juste en ayant fusionné, qu'il y ait une veine qui se forme et on les resépare, le blob qui n'avait jamais vu de caféine va comprendre maintenant que la caféine n'est pas méchante et qu'il va pouvoir traverser avec.
Sacré blob. Il y a bien mémoire et transmission d'informations.
Ouais, voilà. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est assez ouf et ouais, c'est assez impressionnant. Et juste avec une petite veine, on sait ce qui passe dedans, niveau matière vitale, mais on ne sait pas comment ça se passe.
Après, notre mémoire, on ne sait pas non plus exactement comment ça fonctionne non plus. Et ça, notre cerveau, il est constitué de cellules. Alors, je ne suis pas une scientifique, donc voilà. Mais j'imagine que...
Oui, mais notre cerveau est complexe. Genre, on a 2 milliards de cellules. Eux, ils ont une fucking one self cellule et ça fait ça. Et c'est ça que je trouve fort en fait, avec la simplicité qu'ils arrivent à faire des trucs assez ouf. Rapidement maintenant en fait, parmi les prouesses que peuvent faire les blobs, parce qu'on se dit c'est bien rigolo tout ça, mais à quoi ça sert, derrière ils peuvent faire des trucs assez cool, c'est-à-dire recycler
le café. Quand on leur dit que la caféine c'est gentil,
non, ils peuvent le traverser.
Mais non, ils peuvent faire le réseau ferroviaire du Japon.
Alors mine de rien, effectivement, pour résoudre des problèmes ça peut être utile, pour recycler des métaux lourds, parce qu'ils ont une capacité d'absorption de certains métaux lourds qui est qui est la plus grosse parmi tous les organismes vivants à l'heure actuelle, donc c'est assez impressionnant, ça peut servir à ça. Donc ils peuvent traiter des déchets, par exemple dans les labos, ils les laissent dans la poubelle et ça bouffe tous les déchets qu'ils mettent. Donc, mine de rien, c'est écolo.
Vers de terre 2.0.
Ouais, et un tout dernier truc qui est vachement intéressant, c'est que en fait le blob, c'est un des cousins du virus responsable du paludisme par exemple, et d'autres choses, mais je n'ai retenu que le paludisme pour être franc. Mais voilà, et par exemple du coup ça peut aider à comprendre comment se propage le virus du paludisme, etc. Et le dernier petit détail, c'est que ça peut aussi servir pour le traitement des tumeurs, c'est-à-dire que les tumeurs, pour survivre, elles vont être irriguées par un réseau de veines, et donc en comprenant comment elles sont alimentées et comment on peut justement arrêter de les alimenter, on pourrait trouver des méthodes pour combattre le cancer.
En coupant l'être humain en deux.
Merci.
Génial. Du coup, j'ai un petit peu peur maintenant.
Pourquoi ?
S'il y a un gros blob qui vient devant chez moi.
Est-ce que t'as vu le film ?
Non.
Je t'invite à le voir, t'auras encore plus peur des blobs. Il est vraiment dégueulasse ce film. Enfin, je l'ai vu quand j'étais gamin, ça m'avait un petit peu traumatisé.
Ah, puis c'est avec des sons bien stridents, bien dégueux.
Ouais, ça c'est horrible.
C'est sympa. Il y a les bandes annonces sur YouTube, je vous le conseille, si pour voir ce que c'est, mais c'est pas ouf.
Je sais à quoi on va passer notre week-end.
Il y a aussi le film sur The Pirate Bay, si vous voulez.
Allez, c'est un peu okay.
Merci.
Alors, ça pourrait être la fin de ce podcast.
Mais.
Ah, j'aime les mecs.
Suspense.
Mais...
Surprise.
Vous savez ce que c'est qu'un cliffhanger ?
Oui.
Très bien. Bien, paraît-il, à la fin du dernier épisode, on a fait un cliffhanger au sujet de Herman de Pim Pam Poum.
Ah oui.
Qui nous a parlé d'un sujet très intéressant, un sujet qui fascine les Français. Un sujet qui est le vinaigre blanc.
Je vous ai compris.
Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du vinaigre blanc.
Nice.
Yeah.
Jingle random.
Pourquoi ?
Je cherchais
Pourquoi
le sens.
Moi aussi.
Eh bien, il n'y en avait pas.
Sympa.
Alors le vinaigre blanc, je me suis dit comment je vais pouvoir vous en parler sans que ce soit chiant. Alors j'ai pas trouvé.
Donc ça va être chiant.
Il y a que moi qui note qu'on parle encore du vinaigre de race blanche.
on arrête avec ça.
Cette pièce.
Pardon, vas-y.
Je vais plutôt vous donner des utilisations insolites du vinaigre blanc.
Oui.
Alors je compte sur vous pour faire semblant que c'est super intéressant. Parce que ça l'est
meilleur art.
Pas du tout.
C'est, mais on est à fond. Attends. La chronique sur les sitcoms, il est déjà passé.
Ouais. Le vinaigre blanc, on peut s'en servir pour dissoudre de la colle. Vous le savez ?
Non.
Super. Mais genre, quel type de colle ?
Alors de la colle, de la colle à papier peint, par exemple.
Mais genre. Sur la colle U, ça marche ?
À la colle U, n'a pas besoin d'être dissoute parce que c'est de la merde, il y a juste à tirer dessus. Mais bien sûr. Moi, je pensais plutôt aux autocollants de merde que t'as sous les assiettes que t'achètes, tu sais.
Ah, mais oui.
C'est toujours un autocollant du prix. Voilà.
Alors, tu peux aussi utiliser de l'eau chaude.
Tu peux aussi utiliser de l'eau chaude, mais si tu la mélanges avec du vinaigre blanc.
Mais si t'as pas d'eau chaude. Et que t'as du vinaigre blanc.
T'inquiète, on est au taquet.
Alors, on va passer sur quelque chose de plus complexe.
On est tout ouïe.
Avec le vinaigre blanc, vous pouvez tester le pH du sol.
Trop important.
Mais oui,
ça, quoi,
le pH de la terre.
Tiens,
j'ai de la terre dehors.
Est-ce qu'elle est
acide
ou basique,
ou est-ce qu'elle est basique
ou neutre?
Finalement, on va pouvoir prendre une petite poignée de terre, la mettre dans un verre de vinaigre blanc, et qu'est-ce qui va se passer?
As-tu fait l'expérience?
Ça mousse. Alors,
oui, j'ai fait l'expérience.
Mais non, mais c'était pas l'histoire avec le petit cercle et puis les couleurs qui changent et tout quand on est à l'école?
Alors oui, c'est le pH. Oui. C'est très bien, Camille.
C'est bien.
Non, en fait, on va la mettre donc la terre dans le vinaigre blanc. Si ça fait des bulles, c'est que la terre contient du calcaire. En quantité certaine.
Waouh.
En revanche, si on met de la terre dans du vinaigre blanc, ça fait des bulles.
Alors si la terre est calcaire,
si
elle n'est pas calcaire, il ne se passe rien. Le sol est alors acide.
J'adore la physique chimie. Pourquoi j'ai fait un bac L?
Ensuite, toujours sur quelque chose de très scientifique, on peut s'en servir pour blanchir les joints.
Non.
Du carrelage.
Alors
les joints un petit peu dégueulasses, petite brosse à dents, petit vinaigre blanc, clac. Hop, on a des joints tout blancs.
Ouf.
On dirait une séquence, tu sais, du téléachat là, le matin.
Figure-toi que le jingle était un jingle de téléachat. Ensuite, on peut s'en servir également pour dissoudre la rouille.
Oh,
ah bah oui.
Par exemple, la Karim, rouille. Toi qui as les ongles rouillés.
Oui. Et si je l'ai trempé dans le vinaigre blanc, tu veux dire qu'il revient à la normale?
Exactement. Il n'y aurait
plus orange.
Plus de rouille.
Poreux.
Pour les ongles ou pour les bijoux.
Alors, j'ai trouvé, figurez-vous quand même, des utilisations qui sont vraiment utiles dans la vie de tous les jours. Pour les gens que ça concerne, à savoir que
la rouille c'est utile. Hein.
En mettant du. Ouais, mais ça concerne que Karim, moi j'ai pas de rouille sur moi.
Ah, moi je travaille dans le ferroviaire, enfin dans le ferroviaire, dans le fer.
Dans le métalliage.
Dans le métalliage.
Dans la métallurgie.
Dans le rock.
Et ça me servira, écoute.
Eh ben écoute, peut-être que ça te servira aussi si tu as un chat. Figure-toi que le vinaigre blanc, ça peut enlever la pisse sur la moquette.
Ah ouais. Putain, je crois que c'était sur
le chat. Je croyais que t'allais tromper le chat dans le vinaigre blanc.
Mais tu connais le pH du chat après. Si le chat fait.
Si le chat fait des bulles.
On va y revenir. Non, on va pas du tout y revenir. On peut aussi s'en servir pour nettoyer ses verres de lunettes, typiquement.
Mais bien sûr.
Parce qu'il y a des gens qui ont cru, quand ils ont vu des pubs dans les années 90 pour les lingettes vues, que ça avait quelque chose de spécial. Alors que pas du tout.
C'est juste du vinaigre blanc.
C'est du PQ dans du vinaigre blanc.
Alors je sais pas si c'est du vinaigre blanc, mais c'est de la merde. ça peut servir aussi à enlever l'odeur de cigarette
la
de fumée.
La plus précise.
Oui, parce que du coup ça sent le vinaigre blanc.
Bah ouais. Parce que si t'es dans une pièce où ça sent la fumée, tu mets un bol de vinaigre blanc, bah ça va sentir le vinaigre blanc.
Ah non.
Et donc ça sentira plus la fumée.
Trop bien.
Bah oui, c'est trop bien. Je le trouve pas très enjoué. Alors. Oui, Camille.
Et bah, blague à part, je fais à la maison. Hicham ne le sait pas parce qu'il ne le fait pas, mais je fais le ménage au vinaigre blanc.
C'est excellent.
Mais nous aussi, hein.
Ça vous fait super plaisir.
Non, mais sans déconner,
j'ai
c'est
nettoyé
trop bien.
Plusieurs appartements au vinaigre blanc.
Et bah, ouais, en dehors du fait qu'il faut aérer derrière,
ça fait tourner la tête un peu.
Et toi, Elias, tu nettoies ton appart comment?
Alors là, pour les auditeurs, on fait du fan service. Hein. On se livre, hein. On vous donne nos vies, nos amours. Voilà, mon amour de jeunesse, c'était le vinaigre blanc. Hein. À la boum de l'école.
S'il vous plaît, on est en digression, on se concentre un peu quand même. Un sujet sérieux. Avec le vinaigre blanc également, si vous le mettez dans un spray, mélangé avec un petit peu d'eau, sinon c'est un petit peu bourrin.
Ça fait un spray au vinaigre blanc.
Exactement. Mais si vous le mettez sur le pare-brise de votre voiture en hiver, et bien le matin.
Il n'y a pas de gel.
Il n'y a pas de givre.
Ah, vivement.
Et oui, ma gueule.
On a des gratte-gratte.
Et c'est reparti.
Alors, déjà, il n'y a qu'en Franche-Comté que vous appelez ça des gratte-gratte.
Tu sais, la vieille cassette de Johnny, là, qui sert jamais à rien, tu grattes avec ça.
Personne n'a une cassette de Johnny. Mais pareil, si tu prends ton petit spray et que tu mets dans les yeux de tes agresseurs, bim.
Ouais.
Bah, ils vont sentir le vinaigre blanc, en effet.
Ils auront plus les yeux rouillés.
Alors, figurez-vous qu'il y a beaucoup d'animaux qui détestent l'odeur du vinaigre blanc. Donc, si vous voulez aussi faire chier votre animal de compagnie, notamment les chats,
c'est pour toi.
Foutre du vinaigre blanc partout, mais
pourquoi moi ?
Sens pratique. Imaginons, vous avez un enfant en bas âge allergique au chat, par exemple.
Putain,
il a sa petite chambre. Bah, vous pouvez asperger l'enfant de vinaigre blanc.
Ouais.
Le chat ne viendra pas voir.
Et s'il fait des bulles
Et s'il fait des bulles, toujours.
Ne
ça, ça concerne
pas, ça.
Pas que le sol.
C'est qu'il est calcaire.
Mais c'est qu'il contient du calcaire. Effectivement. Qu'il n'est donc pas basique.
Ne faites pas ça avec les enfants.
On va avoir des emmerdes, putain.
Alors aussi, bah, si vous voulez boire énormément de vinaigre blanc.
J'allais y venir. Est-ce qu'on peut faire une salade au vinaigre blanc?
On peut faire une salade au vinaigre blanc. Si on en boit beaucoup, on peut maigrir, puisqu'on peut se choper une bonne grosse chiasse. Et du coup, on va maigrir pas mal. D'ailleurs, je vais terminer ce sujet.
Sur la chiasse, merci, bonne soirée, au revoir.
Vous a bien intéressé par une jeune fille. Une jeune fille qui s'appelle Ella Jean, qui habite dans les Hastings. En Angleterre, cette jeune fille est très particulière puisque à l'ère des réseaux sociaux on ne sait plus quoi faire pour se rendre intéressant, cette jeune fille boit 2 bouteilles de vinaigre par jour.
Elle a fait des bulles ?
Elle nous... Non, elle n'a pas fait de bulles. Elle nous précise cependant qu'elle les boit par petites gorgées parce que sinon, ça brûle. Et donc, non, on est très content pour elle, cette grosse conne. Allez, bonne soirée. Merci.
Merci, Madjine. Pas ce sujet s'imposer. Hein.
J'attends ton prochain sujet sur l'huile d'olive.
Alors, je tiens à rejeter l'entièreté de ce sujet sur Herman. Je n'y suis pour rien.
Est-ce qu'on mettrait pas un petit défi à ce petit Herman ?
À Herman ?
Faire un sujet sur le vinaigre de
balsamique.
Ouais. Bah, je pense qu'on va lui proposer. Écoutez,
Herman, si tu nous entends, t'as fait le malin.
Allez,
bah maintenant tu vas.
Noix ou balsamique ? Faut qu'on se mette d'accord. Noix.
Baie rouge.
Baie rouge.
Ok, allez, baie rouge.
Vinaigre de baie rouge. Faut le placer celui-là quand même.
Vous êtes sûr que ça existe ?
Oui, 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 oui.
Bah écoute,
okay.
Il se démerde.
Allez à Jacta Est.
Voilà.
Allez. Bah, ce superbe sujet va marquer la fin de cet épisode, tout aussi sympathique. Hein. Très intéressant.
Oui. J'ai vraiment passé un très bon moment.
Oui.
Surtout Hicham qui nous a encore fait une chronique
oui.
sérieuse, pertinente.
Les courses de 100 mètres avec 30 mètres d'avance.
Bah, la prochaine fois, on te donnera 30 mètres d'avance. C'est ça.
Non mais je vous prépare un bon sujet pour la prochaine fois.
Ah,
oui, il était très bien.
Le premier.
D'ailleurs, la prochaine fois, on va avoir à nouveau un invité bien chaud. Dont on vous a déjà parlé. On va vous garder la surprise.
Ouais.
Ça va être vraiment bien cool.
Encore une cliffhanger.
Un indice.
C'est un bruiteur de bouche. Non, on va avoir un nouvel invité dans 2 semaines. Ça va être très très chouette. Et puis, comme d'habitude, on vous remercie pour votre assiduité, pour votre attention,
oui,
de nous prêter vos oreilles.
Merci beaucoup.
Ça nous fait vraiment super plaisir.
Un jour, peut-être qu'on communiquera des chiffres, mais vous êtes plein et ça nous fait très plaisir.
Ouais, c'est vraiment vraiment chouette. On a reçu encore des mails, des messages sur Facebook, Twitter et tout. C'est vraiment chouette. On a eu des nouvelles propositions de sujets, donc c'est super cool.
Cœur sur vous. Ça nous touche vraiment, vraiment vraiment.
Des nouvelles collaborations qui arrivent, donc on est très content. Collaboration, c'est par rapport à un sujet de Camille. Hein. C'est juste des entraides entre personnes. Non, c'est vraiment cool. Ça nous touche. On a eu pareil des petits messages sur iTunes aussi avec 5 étoiles. Encore une fois, on va pas trop insister dessus, mais ça nous fait vraiment super plaisir.
Faire,
non mais mis à part les likes et tout, ça me fait plaisir quand vous envoyez juste un message parce que nous c'est le seul retour qu'on peut avoir de vous.
Oui.
Donc ça nous fait plaisir, n'hésitez pas, on vous répondra avec un gros bisou. Et écoute, dans tous les cas, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.
Allez,
au revoir.
Gros bisous, bonne nuit.
Et maintenant,
à bientôt.
Dites-lui encore la rire.
Au revoir.
C'est fini. Il faut arrêter maintenant.
Ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
J'ai pris des copies doubles.
Et t'as des couleurs différentes.
Va en enfer. Sérieusement. Voilà.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.